qui va intervenir sur l'entreprise de l'Antiquité à nos jours. Et ensuite, on organisera une table ronde avec monsieur Jean-Marc Neveu, qui vient d'arriver, et monsieur Richard Bulan, qui est gérant d'une société qui appuie un peu les start-up de ceux qui n'ont pas de gros moyens. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, il y aura un dialogue entre eux sur... puis avec la salle, bien sûr, parce que c'est avant tout ça qu'on veut ce matin, à travers ça, sur l'évolution de l'entrepreneuriat de l'Antiquité à nos jours, en fait. Donc, Francine Sanino, à vous.
Bonjour. Ça marche ? Oui, ça marche ? Bon. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler de l'entreprise de l'Antiquité à nos jours. Et pour... c'est une conférence que j'avais réalisée avec l'association de philosophie Alderan de Toulouse sur un sujet que j'avais travaillé pour préparer des cours pour mes élèves qui soient un peu plus, comment dire, un cours où on ne prend pas de notes, où on reste les bras croisés, juste on écoute et voilà. Et je raconte une histoire avec qui il était une fois et j'étalais ça dans le temps, de temps en temps, pour qu'ils ne fassent rien, mais juste qu'ils se concentrent et qu'ils écoutent. Et je me suis basée sur un livre de Michel Drancourt qui s'appelle « Leçon d'histoire sur l'entreprise de l'Antiquité à nos jours », qui est édité chez PUF et qui est très très bien. Voilà, donc on va commencer. Tout d'abord, dans le paysage des entreprises, on parle de petites, moyennes entreprises, d'entreprises artisanales ou d'entreprises industrielles, d'entreprises de production, de services. Est-ce qu'on peut vraiment maintenant distinguer toutes ces entreprises ? On parle de chef d'entreprise ou de gouvernement d'entreprise. Bon, peut-être que le panorama d'histoire va nous permettre de nous retrouver dans toutes ces distinctions. Alors, tout d'abord, la préhistoire de l'entreprise. Au début, il n'y avait que les échanges jusqu'au XIe siècle. On se basait sur les échanges. Par exemple, le silex de Grand Pessigny, à côté, se retrouvait dans l'est de la France et de l'Europe. Donc, il y avait bien des échanges et les produits circulaient. On avait du bitume qui circulait également, du cuivre, de l'argent, de l'or, de l'albâtre, du bois, qui venait des pays... c'était surtout une ville comme Our, qui est... donc à l'embouchure de l'Euphrate, qui avait un marché international. C'est-à-dire qu'on s'apercevait que les produits circulaient uniquement avec de l'échange, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore la monnaie. Il fallait bien financer cette économie. Et comment fonctionnaient les banques ? Et bien, au départ, c'était les temples. C'est-à-dire que les temples étaient des endroits sûrs. Du coup, on avait des personnes qui faisaient des dépôts, mais des dépôts aussi bien de produits en nature que de genre de change, si vous voulez, et les temples représentaient une garantie. On a eu ensuite l'apparition de la monnaie métallique. Avec l'apparition de la monnaie métallique, on a vu petit à petit... apparaître d'autres entrepreneurs, des orfèvres, des changeurs, des collecteurs d'impôts, des banquiers. À Athènes, par exemple, il est apparu les lois de Solon sur la liberté des taux d'intérêt. Ce qui a amené une critique d'Aristote qui considérait que l'argent devait rester stable dans le temps et qu'on ne devait pas appliquer de taux d'intérêt. On avait déjà à l'époque des gens qui manipulaient l'argent. Par exemple, Sinope, le père de Diogène, avait allégé le poids des pièces pour pouvoir relancer l'économie, ce qui avait entraîné une hausse générale des prix. Quelque chose de connu... Voilà, une manipulation. On a eu les conquêtes romaines qui exigeaient des fonds. Donc, mais les Romains ne voulaient pas manipuler l'argent. Donc, c'était des banques grecques qui s'instauraient et qui donc manipulaient l'argent. Et on a vu apparaître quelque chose qui est la tenue des comptes. C'est-à-dire que les Romains confiaient la manipulation de tout ce qui était argent à des banques grecques. Mais en échange, ces banques devaient tenir des comptes de manière très précise. Et quand on arrive au deuxième siècle, on va avoir un changement dans l'économie à cause des croisades. C'est-à-dire qu'on a les chevaliers qui vont s'insérer dans l'économie. Ils vont essayer de récupérer la ferme des impôts pour pouvoir récupérer de l'argent pour leur croisade. Et ils vont essayer d'avoir aussi la gestion des marchés publics. Et on va les surnommer les publicains. On va voir apparaître des sociétés aux actions négociables. C'est-à-dire que ça va permettre à des nobles qui n'ont pas le droit de travailler, puisque telle était la société à l'époque, d'avoir de l'argent par l'intermédiaire d'actions qu'ils vont pouvoir négocier sur des marchés. Ils vont placer des obligations dans le public. Et puis, ils vont créer des sociétés de personnes, de manière à... Ça va être l'ancêtre des banquiers d'affaires. Chacun va être responsable pour le tout et ils vont pouvoir réaliser des opérations de commerce, alors qu'au départ, ils n'avaient pas le droit de faire ces opérations. Ensuite, dans la production, il est bien évident que dans la production, vous doutez bien qu'on n'avait pas des grosses entreprises avec 50 ou 100 personnes. Mais toutefois, on va observer la division du travail dans la production des silex. Parce que certains vont se spécialiser dans certains gestes. Pour produire les silex, on va donc avoir une spécialisation pour cette fabrication. Donc on peut peut-être parler d'entreprise dans le sens où on a quelques personnes qui se regroupent pour produire un produit qui va être échangé. En Grèce, on a des entreprises de céramique, des mines de plomb argentifère, et on va voir apparaître pour la construction de bâtiments, des rassemblements de personnes spécialisées, chacune dans un domaine, des maçons, des charpentiers, avec un chef de chantier et des contrats de réalisation. Il va y avoir des contrats. C'est pour ça qu'on a beaucoup de constructions en grec. Le père de Démosthène, qui était fabricant de couteaux et d'armes, avait 30 esclaves, petite entreprise de production. Ensuite, on va avoir quand même l'interventionnisme de l'État. À Rome, tout était géré par des corporations d'artisans, c'est-à-dire quelque chose de très encadré, avec des règlements. Crassus avait 500 esclaves, maçons, charpentiers, tous les domaines du bâtiment, pour pouvoir justement avoir des contrats de réalisation et travailler à construire ces bâtiments. Ensuite, on va essayer de rationaliser la production. Alors, cet essai de rationalisation va être plutôt par des productions artisanales dans des villes qui vont se spécialiser. En exemple, à Tarente et en Cône, on produit du pourpre et tous les produits de teinturerie. À Syracuse, on produit des lainages, mais des lainages chics. À Modène et Parme, on produit des lainages, mais ordinaires et en grande série. Donc, on va avoir un petit peu des petites unités de production. Peut-on les appeler entreprises le mot serait, au sens d'aujourd'hui, trop fort, mais on a quand même un regroupement. Donc, c'est quand même une naissance d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui explique la vulnérabilité des sociétés antiques et pourquoi les entreprises ne pouvaient pas se développer à cette époque? Il faut regarder déjà la structure de la population active. on avait 2/3 des personnes actives dans l'agriculture. Les mines ne représentaient que 0,15% de la population active. Les transports, 1,1%. Donc déjà, on produit des choses dans des endroits, mais on ne sait pas les transporter. On ne sait pas faire circuler les marchandises. Le commerce et la finance représentent 4,5%. Il ne faut pas oublier qu'à certains endroits, certaines personnes n'avaient pas le droit de toucher l'argent, n'avaient pas le droit de percevoir des taux d'intérêt. Donc automatiquement, ça limite aussi les échanges. L'artisanat représentait 9,5% et c'est sur ces 9,5% on s'aperçoit que c'est à partir de produits, on va dire, agricoles, puisqu'on a 25% d'agroalimentaire, du bois pour 17%, du textile pour 25%. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à une société de base agricole. C'est une structure qui existait encore dans des pays en voie de développement il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire où la majorité de la population est agricole et où on n'a pas d'autres richesses. Au niveau des marchés, les marchés sont locaux, c'est-à-dire on a un empilement, juxtaposition d'activités, mais uniquement au niveau local. Comme il n'y a pas de débouchés, comme il y a beaucoup de réglementations et de guildes, on maintient une offre qui est inférieure à la demande toujours et les prix sont très élevés. Mais de toute façon, au niveau de la population, il est bien évident qu'au moment où on a les esclaves, au moment où on a des gens qui ne sont que préoccupés par leur survie, il est impossible que la demande il est impossible de faire une offre qui satisfasse toutes les demandes. Les gens ne sont préoccupés que par les besoins primaires, hein, tels qu'on on avait dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire essayer de se maintenir en sécurité, de manger et de dormir. On sait aussi, par exemple, qu'à Rome, les seules demandes qu'il y avait, les seules entreprises qui se mettaient en place ne servaient qu'à exploiter des privilèges. C'était pas du tout pour développer les productions, pour apporter une meilleure vie aux autres. Les personnes qui se lançaient dans la création d'entreprises n'étaient que pour exploiter leurs privilèges. Par exemple, un général d'armée à qui on accordait les terres qu'il avait conquis. D'accord ? Et qui donc montait une exploitation agricole énorme, mais au détriment de tous les petits agriculteurs qui étaient avant propriétaires de leurs terres, si on peut dire. Voilà. Le seul objectif de Rome, c'était ponctionner les territoires conquis. Et du coup, il pratiquait l'usure au détriment des provinces. C'est-à-dire que ces généraux empruntaient à Rome, où les taux d'intérêt étaient bas, et ils prêtaient dans les provinces aux notables locaux. Donc, on avait une fuite des capitaux et Rome ne générait aucun profit et ne faisait que consommer. Malgré tout, on avait beaucoup de recherches. On a noté en Grèce des recherches sur la pression de l'air et de l'eau. Un calcul sur la force des leviers, une recherche sur la roue, dans le seul objectif de fabriquer des machines de guerre, pas du tout d'appliquer dans des machines de production. Et en Chine, on avait beaucoup d'inventions techniques, mais ils n'ont pas du tout profité de leurs inventions, car ils n'avaient pas du tout le souci de l'homme. En Chine, le seul objectif des personnes étaient de réussir les concours pour entrer dans la bureaucratie de l'empereur. Donc, toutes les inventions techniques qui pouvaient être faites n'étaient pas du tout appliquées. on va avoir un petit changement entre le XIe et le XVe siècle, déjà amené par on a des périodes qui se succèdent et qui ne sont pas sûres. C'est-à-dire que on a des périodes de calme où on a un petit développement des échanges, et puis dès qu'on a des guerres, tout se contracte et tout redevient, on a un protectionnisme, on revient à quelque chose de très local. On a la chute de l'Empire romain, on a des successions d'invasions. Quand il y a des invasions, les cultures sont très médiocres. On n'a pas de moyens de communication. Et les populations d'Europe, du nord et du centre, sont très faibles par rapport à d'autres régions. Malgré tout, avec les conquêtes des Romains, on a diffusion de certaines techniques, par exemple la charrue, la métallurgie avec les barbares, la maîtrise de l'eau et du vent avec les Arabes. Donc on a quand même des progrès techniques qui vont amener une amélioration au niveau des productions, mais qui vont rester agricoles. Le seul empire qui s'est développé, on va dire que c'est l'empire byzantin, qui a une économie dirigée, qui laisse le commerce libre, qui a une flotte importante, qui fait circuler l'or à Byzance dans l'islam, qui invente la société en commandite pour pouvoir justement avoir des commerçants qui vont dans le monde entier. Ils vont faire une percée marchande vers Kiev parce qu'ils n'ont plus de débouchés en Syrie et en Égypte. Ils vont remonter le Don et la Volga vers les marchés khazars et vers la Baltique. On a les Suédois qui, eux, descendent vers la mer Noire, qui vont implanter des colonies marchandes en Bohême. Et après, on sait qu'on a une période de prospérité sur l'espace arabe, par exemple à Cordoue. À Cordoue, ils ont mis en place une agriculture efficace, des mines qui sont mises en valeur, des commerces encadrés par des corporations, et ils développent entre villes. Et le seul pays qui, au Xe siècle, va établir une base pour un marché cohérent dans les temps ultérieurs, ça va être l'Angleterre, parce qu'elle va, elle va parvenir à une unité au niveau du pays, alors que tous les autres pays sont encore divisés en seigneurs féodaux qui se font la guerre, il y a des rivalités, voilà. Donc du coup, on se retrouve avec des ensembles économiques qui sont dispersés, on a les invasions germaniques, on a la montée d'islam, on a la séparation entre empire byzantin et empire carolingien, après on a l'affaiblissement de Byzance. Les temps ne sont pas sûrs du tout. Vont pouvoir se développer quand même les ports italiens. Amalfi, Salerne, Naples, mais surtout Venise. Venise va pouvoir construire des bateaux à fort tonnage qu'ils vont protéger par une flotte de guerre, et ils vont pouvoir circuler dans toute la Méditerranée pour livrer tout le monde. Et ils vont signer pour la première fois un traité de commerce avec des droits de douane et des accords de juridiction. Tiens, 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 on croirait l'OMC. C'est-à-dire qu'en cas de conflits commerciaux, on saura à quelle juridiction on va s'adresser, et ils vont supprimer les droits de douane entre certains pays. Alors, le renouveau. Le renouveau est amené par les croisades. Les croisades vont accentuer les échanges. On a des rapports de force entre des États. On a des républiques marchandes par ville, souvent. On a des mouvements d'argent qui deviennent indispensables. On voit apparaître les nouvelles techniques bancaires. On a une nouvelle économie politique. On a des redistributions de ressources. Les croisés obtenaient de l'argent soit en vendant leurs terres, soit en accordant une charte de franchise sur leurs propriétés pour que des personnes continuent à exploiter leurs terres et eux avoir un revenu. On a un accroissement de la population. On a donc une organisation économique, monétaire, financière. Mais par bon, au XIVe siècle, on va avoir beaucoup de pluies qui vont amener de la famine et une peste noire qui tue un tiers de la population. Et ensuite, la guerre de 100 ans. Donc, on voit bien qu'avec ces temps pas sûrs, on ne peut pas développer vraiment l'entreprise au sens moderne du terme. On a des inventions, mais les inventions à l'époque mettent 100 ans pour être connues et diffusées. L'invention la plus importante, c'est le moulin à eau. Le moulin à eau, à l'époque, ça a la même importance que quand on a découvert le pétrole. Les spécialistes de cette énergie hydraulique, c'était les moines cisterciens. On voit apparaître aussi l'arbre à cames pour transmettre, commander le mouvement d'une machine. On voit apparaître le papier. Ça va permettre la diffusion de traités qui expliquent l'attelage, la traction, la manière de ferrer les chevaux, enfin des traités très pratiques. On a un tas de métiers qui apparaissent au niveau de la forêt, pour l'exploitation de la forêt. On a les charpentiers, mais on a aussi les fabricants de cordes, de charbon de bois, les métallurgistes, les briquetiers. Pour le transport, on a une amélioration avec l'apparition des bateaux à proue, gouvernail des tambours, la boussole, et surtout l'instrument de mesure. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des pendules mesurant le temps et on va mettre au point des étalons pour mesurer le système des poids. Et on va voir apparaître aussi la comptabilité en partie double. Pour pouvoir échanger, il faut avoir une comptabilité en partie double. À partir du moment où on fait des lettres de change, des choses comme ça, si on n'a pas de comptabilité en partie double, on ne peut pas suivre tous ces mouvements. Tout ça, ça vient de Venise, Florence, voilà, de l'Italie. Alors, là où ça va beaucoup bouger, c'est entre le XIVe et le XVIIIe siècle, hein, avec les précurseurs de l'entreprise moderne. On a des entrepreneurs qui commencent à se spécialiser. Ils prennent des risques, ils manquent de capitaux, donc ils vont jouer avec le marché. On va voir apparaître des gens qui jouent à la hausse du seigle quand le marché est mal approvisionné. Ah, tiens, on a l'impression d'être sur les marchés financiers du 20e et 21e siècle. On essaye de prévoir à Florence quels sont les pots de Russie qui vont se vendre le mieux à Londres l'hiver suivant pour pouvoir demander à ce qu'on plutôt certaines espèces animales que d'autres. On va essayer de savoir si à Bruges, les drapiers sont capables de supporter la hausse des prix du fait de la raréfaction des laines anglaises, ou bien est-ce qu'ils vont plutôt décider de travailler des laines moins chères avec les moutons mérinos castillans. Et il y a des gens qui vont jouer là-dessus, sur les valeurs. Mais du coup, on va voir apparaître un petit peu des entreprises, mais qui ne peuvent plus agir seules. Et on va observer une séparation des fonctions, direction, exécution, production, financement. C'est le moment où va se dessiner l'organisation durable. L'entrepreneur marchand va devenir industriel. Alors, industriel est un bien grand mot, hein, attention. C'est-à-dire que ce marchand va procurer des matières premières aux artisans et va récupérer les pièces fabriquées. Il va donc prendre des risques puisqu'il achète des matières premières. Il ne sait pas ensuite si les pièces fabriquées qu'il va devoir payer seront bien vendues. Il va prendre des risques au niveau du financement et d'échange parce qu'il va acheter des laines dans un pays, dans une monnaie. Il va la faire travailler dans un autre pays, dans une autre monnaie, et il va vendre le produit fabriqué dans une troisième monnaie. Et on voit apparaître le dumping social. Tiens, là aussi, le monde moderne n'a rien inventé. C'est-à-dire que le marchand qui devient entrepreneur va faire travailler, va chercher les zones dans lesquelles le travail est moins cher et plus libre, qui n'est pas trop de guide de corporation qui encadre. Bon, à terme, on va quand même dire que ça va améliorer le niveau de vie des travailleurs. Il va y avoir un genre d'unification. Mais après, on est dans un monde où on recherche les monopoles. Pourquoi ? Parce que si on fabrique des produits chers, c'est uniquement pour répondre aux caprices des princes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un vrai marché avec tout le monde qui peut acheter. On peut dire que c'est la naissance d'un capitalisme qui est adapté à l'époque. Recherche de marché rentable, calcul prévisionnel, exigence de profit et dépendance aux aléas politiques. Ah, tiens, lutte d'influence, guerre. On doit décider sans disposer de tous les éléments de décision. On doit choisir entre la politique de l'un ou la politique de l'autre. Si on se trompe, on peut être mis à l'écart. On peut investir à bon escient, on peut se mettre en position de survie. Malgré tout, il y aura des points forts qui vont être opérés par ces entrepreneurs. Vous allez voir que ces points forts, on les retrouve dans le monde moderne. La qualité de l'information. Avoir les bonnes informations, rapidement au bon moment. Rapidement à l'époque. Qualité de la formation des collaborateurs. Eh bien oui, on observe par exemple qu'en Italie, les enfants des marchands vont à l'école jusqu'à 15 ans, à une époque où personne n'allait à l'école. Donc ça veut dire que ces gens étaient instruits jusqu'à l'âge de 15 ans, puis étaient formés. C'est énorme pour l'époque. Il y a aussi la qualité de la compréhension du milieu. Ces marchands travaillent avec Londres, Séville, Gênes, Barcelone, Brême, Bruges, Lyon. Il est bien évident qu'il faut comprendre la mentalité des populations n'est pas du tout la même à Londres ou à Barcelone. Il faut donc avoir une vision et un relationnel très, très fort dans chacune de ces villes. Alors, les meilleurs à ce jeu-là sont les Florentins. Les Florentins vont mettre des méthodes d'information, c'est-à-dire s'informer sans informer les autres, avoir les meilleures informations, mais être avant les autres, mettre en place des tarifs, des encyclopédies, des tables arithmétiques. Des très bons aussi, c'est la Hanse. Au niveau de la Hanse, ils ont les meilleurs réseaux de diffusion. Et on va voir apparaître les sociétés anonymes. La première société anonyme vraiment reconnue, c'est le Bazac, la Toulouse. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui... La société du Bazac va être par action et les actions vont se passer de personne en personne pour avoir les capitaux parce qu'à l'époque, les moulins, c'était très important pour avoir la farine et le blé. Et pour financer les moulins, on voit apparaître les sociétés par action. Et puis, dans ces moulins, dans les sociétés par action, on va essayer d'attirer les économies des boulangers, forgerons, orfèvres, hommes de loi, officiers de finances, voilà. Donc on va avoir... mais ces sociétés sont temporaires. Un quart pour moins d'un an, un tiers pour un an seulement, un dixième pour 5 ans, donc aucune durabilité. On n'a pas de durabilité des entreprises. Alors, au niveau de l'environnement favorable à l'époque, on a le tour du monde de Magellan qui va faire arriver l'or, l'argent. On a un développement intellectuel avec toutes les réformes. En Europe surtout, où, par exemple, la Hollande, qui est pauvre, sans richesse naturelle, va développer l'esprit d'entreprise et d'organisation. Elle va faire des choses que l'on retrouve dans le monde moderne, attirer des réfugiés politiques, développer des industries et surtout exercer l'attraction des cerveaux et transfert de technologies. Elle va faire venir des gens d'autres pays qui sont les cerveaux de ces pays-là. Elle va aller les repérer sur place. Elle va mettre en place des lettres patentes pour pouvoir donner des privilèges, des droits, des libertés, développer des technologies. on va voir apparaître les moulins à vent, les pompes à spirale, les dispositifs d'assèchement, les conservations du poisson, les constructions navales. Amsterdam va devenir la capitale du savoir et de l'information. On a des gazettes qui sont imprimées et qui annonce l'arrivage des navires de la Compagnie des Indes. Dedans, on y trouve les voyages, les durées, les produits attendus, les prix, le cours d'échange. C'est-à-dire que les marchands vont pouvoir anticiper. On va avoir les premières études de marché. En avancée technologique, on a l'Angleterre qui chauffe l'eau de mer pour en tirer du sel et du charbon au lieu de bois. Pour comparer, en France, on est quelques centaines de tonnes de sel. En Angleterre, on en produit 50 000. Le charbon, 200 000 tonnes. Angleterre, 1 500 000 tonnes. En Angleterre, on produit du verre pour faire des vitres et des bouteilles. Et en France, on en est encore à Louis XIV qui commande les vitres et les glaces pour son palais. Et il est le seul à commander des vitres et des glaces. Et on a le dumping fiscal qui apparaît. En Angleterre, la fiscalité est 3 fois moins importante qu'en France. La fiscalité est faite pour favoriser la demande, alors qu'en France, c'est pour répondre aux besoins de la cour, pour financer la cour. On a des progrès techniques qui sont limités. On a l'amélioration de la productivité et la qualité des produits. Et on va observer des résistances au développement de la technologie. À Danzig, on détruit un métier à tisser qui peut tisser plusieurs rubans en même temps. C'est le conseil municipal qui détruit parce qu'il craint le chômage. Et il noie l'inventeur pour être sûr qu'il ne réinvente pas une autre machine. Le Parlement anglais interdit les machines à carder. Donc, on a des disparités entre les pays. Et c'est pour ça que l'Angleterre sera en avance par rapport à d'autres pays, parce qu'on n'aura pas le développement, on n'aura pas d'impulsion donné par les politiques. Malgré tout, on va voir apparaître la division du travail dans les machines au niveau de l'industrie textile. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, alors là, vous connaissez à partir du XVIIIe siècle ce que je vous ai raconté dans l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle était peut-être moins connu de votre part. À partir du XVIIIe siècle, vous connaissez tous les révolutions industrielles, mais avec des rythmes irréguliers. On a un seul souci, c'est de produire pour répondre à la demande. Et ce qui va être, on va dire, le développement vraiment pour faire apparaître les industries, ça va être la machine à vapeur, l'énergie, la télégraphie et l'invention qui va être la plus structurante au niveau de l'économie, ça va être le chemin de fer. Le chemin de fer va induire les normes, c'est-à-dire les premières normes qu'on voit apparaître de fabrication. C'est pour faire circuler la locomotive, la Blücher, inventée par les frères Stephenson, parce que si tous les producteurs ne fabriquent pas la même locomotive, on ne peut pas circuler sur tout le territoire. Donc ça va être les premières normes qu'on va voir apparaître. On aura ensuite des normes électromécaniques chez Siemens, des normes pétrolières de Standard Oil, des normes en téléphonie de Bell. Ensuite, les chemins de fer vont inventer la fonte des pièces en un seul morceau au lieu de plusieurs qui vont être rivetés. On va passer à une entreprise organisée. On a 32 000 personnes qui travaillent pour les chemins de fer. Il va falloir des gens formés, capacité à lire, suivre les instructions, des dirigeants à plein temps. On va pratiquer la maîtrise des coûts. C'est par les chemins de fer que va arriver le calcul de la maîtrise des coûts. On va maîtriser son extension. Et ensuite, le chemin de fer va induire des activités complémentaires parce que le charbon devient transportable. Il va induire des transformations urbaines. On va être obligé de changer les villes. Il va induire l'usage de l'acier, 8 fois moins cher que le fer. Et du coup, disparition des façonniers, c'est-à-dire des petites des petits artisans. On va développer des entreprises chimiques qui demandent du personnel hautement formé. Et du coup, on va, entre l'ordonnance de 1673 et le code de commerce de 1807, en France, on va voir apparaître des structures de sociétés qui vont favoriser les développements d'entreprises. On va voir apparaître la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme mais première ébauche, et on va voir la consécration des documents comptables de base. Et surtout, on va voir apparaître la mesure du temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des horloges dans toutes les entreprises, on va avoir un développement des banques d'affaires avec des réseaux d'information très développés qui vont être internationales dès le début avec des noms qu'on connaît encore, hein, Rothschild, Morgan, voilà. On va avoir aussi des financements de l'économie par des banques commerciales. Les clients vont faire des dépôts, on va s'en servir pour prêter aux entreprises. Du coup, on va avoir un progrès de l'industrie et, pour la première fois, on va tenir compte du consommateur. Et tout ça, ça va être amené par, par Ford, quand on va arriver au, ensuite au... Comment, au début du XXe siècle, parce qu'il va comprendre que en payant très correctement ses ouvriers, il va construire une société de consommation et donc il va pouvoir diffuser ses produits. Et du coup, on va passer d'une entreprise technique à une entreprise organisée avec mesure du temps. Et toujours avec des périodes incertaines, hein, on est bien d'accord, on a les guerres mondiales, on a des reconstructions, on a avec des changements. Pour arriver en 1980, entre 73 et 90, à une entreprise qui est déstabilisée par la crise du pétrole, des finances, la troisième révolution industrielle avec les microprocesseurs. Et l'entreprise est devenue mondiale depuis 1990. Je conclurai en disant que l'entreprise est soumise au principe de réalité, c'est-à-dire qu'elle est dans son temps, en relation évidemment avec les politiques, toute l'économie. Elle ne peut pas être en dehors, elle est dans un tissu de fournisseurs, de techniciens, de formateurs, voilà, et qu'un dysfonctionnement d'une entreprise induit un dysfonctionnement de sous-traitants, de fournisseurs, de revendeurs, voilà. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas changé depuis l'Antiquité. Voilà.
Merci Francine Sandino, merci pour ce panorama historique. Vous restez à la table et j'appelle Jean-Marc Neveu et Richard Bulan pour qu'ils puissent nous rejoindre et puis qu'on engage un débat. D'abord, ils vont se présenter, ensuite ils vont réagir peut-être à ce que vous avez dit, et puis surtout ce qu'on souhaitait à travers cette table ronde, qui est une amorce hein, pour aller plus loin peut-être l'an prochain, allez-y, installez-vous messieurs, c'est de réfléchir sur l'entrepreneuriat de demain en fait, hein, puisqu'on a fait le passé, et qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat de demain. Donc Richard Bulan, vous présentez rapidement, et puis Jean-Marc ensuite, et ensuite vous engagez un débat, puis engagez un débat avec la salle, évidemment, puisque c'est l'objet.
Donc, bonjour, moi je suis entrepreneur pour Jacoop. On est une plateforme de mise en relation d'entrepreneurs pour avoir des prestations moins chères avec de l'influence. L'influence, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre d'amis que vous avez sur les réseaux sociaux et votre carnet d'adresses. Donc voilà, pour faire très, très rapidement. Et on est basé, quoi, on est basé en Aquitaine, puisque je me déplace beaucoup entre Angoulême, Saint et Bordeaux. C'est Jacoop.
Oui, donc bonjour, je m'appelle Jean-Marc Neveu, donc je suis dirigeant de deux structures, CDA Développement et Ardatech. On est spécialisé dans la conception et fabrication de pièces plastiques pour le domaine industriel, l'aéronautique, l'automobile, le gaz. Et on est basé à Châtellerault, on a une quinzaine de personnes. On existe depuis 25 ans. Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez commencer par réagir un peu à l'exposé de Mme Sandino, ce que vous a, enfin, ce que ça vous évoque, ce que vous avez envie de dire par rapport à ça, puis ensuite on engage un débat sur l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain.
Pour ma part, je suis historien de formation, donc ça me parle beaucoup. Et donc je voulais rebondir justement, puisque sur ma double thématique, sur l'influence et sur l'histoire de l'entreprise, au XIIe siècle, le bleu est arrivé d'un coup. En gros, ce sont tous les teinturiers qui ont vu qu'il y avait une nouvelle teinture qui était apparue. Et donc, ils ont décidé de faire un coup de com'. Puisque le vêtement de la Vierge Marie était rouge à la base. Et au XIIe siècle, quand les teinturiers ont eu cette nouvelle teinture, ils se sont dit, attendez, on a un coup à jouer. On va faire de la pression sur l'Église pour changer le manteau de la Vierge Marie. Donc, c'est pour ça que le bleu est apparu dans la communication. Voilà, donc moi ça me fait penser à ça, que les réunions d'entrepreneurs, ça peut aussi faire évoluer les choses et la société.
Marc, tu veux réagir spontanément sur,
ouais, ben merci
sur ce que ça t'évoque hein.
Merci pour cette histoire longue et surtout aussi les parallèles en disant que voilà, depuis l'Antiquité, en fait. Produit, on échange, qui est la base même de l'entrepreneuriat, en fait, hein, un peu de la société. Et on voit aussi, on va dire, les tensions qu'il peut y avoir entre les pouvoirs centraux, les pouvoirs décentralisés, les échanges, les ports, la communication, ceux qui gardent l'information, ceux qui partagent l'information. Donc on va dire tout ça, rien de nouveau. Dans l'époque moderne. Simplement, je pense qu'il faut... moi, je suis parti du Centre des jeunes dirigeants, qui est une histoire beaucoup plus courte que celle que vous avez évoquée, qui ont été créés en 1938, qui ont pour but de mettre l'économie au service de l'homme. Et l'idée, c'est de dire, il y a bien sûr toute cette économie-là, mais la question qu'il faut... Et de toute façon, on voit bien que les lois ou les événements n'ont pas changé grand-chose à cette volonté de commercer et de développer, même en Chine, on voit ça. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette économie contribue peu ou prou, ou ces formes d'organisation d'entreprise contribuent peu ou prou au développement humain, développement humain et au développement de... la préservation, on va dire, de la planète. Et je crois que ces questions-là, elles sont pas forcément mises en exerce systématiquement. On peut avoir n'importe quel type d'organisation, mais est-ce qu'on mesure sa contribution, au développement humain en général, et que ce soit une performance. Alors nous, on dit que une entreprise. Comme on la conçoit au CJD, elle doit avoir bien sûr une performance économique, sinon la partie échange économique ne fonctionne pas. Une performance sociale, c'est-à-dire qu'elle doit être aussi dans un dialogue social avec l'ensemble des parties prenantes proches. Et une performance environnementale pour la partie de la Terre, et une performance sociétale qui contribue en fait à l'épanouissement du territoire où elle se trouve. Et je pense que on est aujourd'hui un peu à la croisée du chemin. On parle de plateforme, on parle de choses comme ça, où deux types, on retrouverait deux types anciens d'entreprises, comme vous l'avez cité, un peu ces histoires de. Je pensais à ça parce que j'étais à Morlaix cet été où. C'est ce que vous disiez, où ils sont devenus spécialistes de la toile cirée, la toile de lin. Et en fait, ils étaient un peu comme Uber, ils mettaient à disposition leur métier à tisser et leur force de travail pour des gens qui faisaient du commerce. Et là, il y avait des gens qui faisaient de la plateforme, le commerce, ils distribuaient un peu les choses. Et pour moi, et sa contribution, elle est au territoire, mais. C'est une certaine forme de contribution. Et puis des entreprises, vous n'en avez pas trop parlé au début du 20e, ou fin du 19e, ces grandes utopies où il y avait des entreprises qui donnaient à la fois l'éducation, à la fois le couvert, etc. Donc entre ces deux modèles qui sont peut-être un peu extrêmes, il faut peut-être aussi voir ce qu'on peut faire et comment on peut imaginer l'entreprise de demain.
Vous voulez réagir, madame?
Oui, non, c'est vrai, j'ai pas. Le panorama était tellement large, je me suis plutôt appesantie sur les débuts de la naissance de l'entreprise. Je ne suis pas trop restée sur le. C'est vrai qu'au 19e, on a eu les entreprises dites paternalistes, où le chef d'entreprise prenait en charge ses ouvriers, les enfants des ouvriers, les. Bon. Avec plus ou moins de bonheur, évidemment, selon les entreprises. Certains jouaient vraiment le jeu d'aider les ouvriers, de leur apporter quelque chose, et puis d'autres voyaient plutôt la main-d'œuvre quasi gratuite de père en fils ou de mère en fille, selon les postes dans les usines. C'est vrai que ça a été une période certainement très compliquée qui a abouti quand même à des conflits sociaux importants parce que faut rappeler que l'espérance de vie était courte. Voilà.
Oui, mais ce qui peut être intéressant, c'est que dans ces expérimentations-là, il en est resté des choses, notamment sur l'assurance sociale ou des choses comme ça.
Voilà, c'est arrivé milieu du 20e siècle, enfin avant, on est arrivé petit à petit à avoir des lois sociales quand même qui mettent en place un certain nombre de structures qui sont peut-être en péril maintenant, je ne sais pas, à cause du financement, mais bon,
bien sûr,
c'était une avancée.
Bien sûr, et voyez là où on en est, c'est que justement, notre modèle social repose sur un modèle d'entreprise aussi, ou un modèle d'entrepreneuriat. Et que demain, si on change un peu les règles, et on voit bien ce qui se passe avec nos amis les GAFA, là, si on repose notre modèle social sur un financement par ces entreprises, ces plateformes, on va dire, sans être péjoratif, ça pose d'autres questions. Comment on assure une certaine forme de modèle? Est-ce que ça veut dire que demain, les chefs d'entreprise devront héberger à nouveau les salariés pour qu'ils puissent vivre heureux et travailler heureux?
Mais est-ce que le salarié va rester? Est-ce que ça va pas passer en freelance? Et où chacun est son petit chef d'entreprise. Donc là, ce serait plus sur un modèle de corporation qu'il faudrait se tourner.
Oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est sur le modèle d'Uber où on met à disposition sa voiture, voilà, donc son métier à tisser, et puis les heures de conduite, c'est les heures de tissage. Donc c'est et puis c'est le client, la plateforme qui lui donne le travail et qui récupère le travail quand c'est terminé. Alors bon, après moi j'ai pas de position morale par rapport à cette division du travail. Je dis simplement que si on passe et c'est peut-être ça l'intérêt de mettre sur l'histoire longue, peut-être un complément à votre présentation, de dire si aujourd'hui on a un modèle de financement qui ne s'occupe pas de cette partie de plateforme où un certain nombre de choses ne pourront pas être prises en compte, la sécurité sociale, les trucs comme ça. Et comment fait-on quoi? Et encore une fois, je sais pas, c'est pas un jugement de morale sur les plateformes, mais c'est comment on finance notre modèle, ou comment ces modèles, en fait, on va dire, contribuent concrètement au développement de notre pays et au développement de la société quoi, en général. Je ne sais pas si.
Peut-être on peut voir s'il y a des questions dans la salle et vous pourrez rebondir à partir de ça. Et j'aimerais aussi que vous interveniez, puisque vous êtes dans l'enseignement, sur les visions qu'on peut avoir et notamment à travers l'éducation à l'entrepreneuriat qu'on évoque aussi. Ce que vous faites dans votre établissement, ce que fait Jean-Marc autour de PA, les start-up, etc. Enfin, qu'on porte aussi ce thème de l'éducation à l'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions ou vous voulez apporter un regard ou un questionnement à cette... Oui, tu te présentes en même temps pour l'enregistrement.
Bonjour. Bonjour, Philippe Verin, potentialité des développements locaux. Juste, en fait, dans l'histoire des entreprises, je pensais c'était que le curseur, il y a un curseur qui est important à sortir, c'est le curseur de l'énergie. Le curseur de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu augmenter, on veut dire, l'organisation des sociétés, enfin, on va dire, sociétale, de la ruralité vers l'urbain, etc., par le principe de la capacité à récupérer l'énergie pour transporter, pour transformer, pour, etc. Donc, quand on analyse le curseur de l'énergie, de l'augmentation de la capacité d'énergie qu'on a accumulée d'une façon ou d'une autre, ça permet, effectivement, une organisation sociétale différente. Et quand on ramène ça sur entreprise, énergie, territoire, on peut penser que dans le futur, on a un processus, bon, on voit comme Amazon et les autres GAFA, eux, ils ont chanté le processus de la relation entre le consommateur et le producteur, on va dire comme ça, donc ils gagnent beaucoup là-dessus. Mais en fait, l'idée, c'est que dans le futur, on peut penser que par rapport au territoire, on est énergie délocalisée, on pourrait dire entreprise délocalisée au sens utilisation, capitalisation, utilisation de l'outil délocalisé aussi, et donc on peut repenser à ce moment une autre restructuration du territoire avec une économie différente par rapport au curseur de l'énergie notamment. Voilà.
Vous voulez réagir sur...
Une remarque sur l'énergie, ça peut être l'effet inverse aussi, elle peut être reterritorialisée, etc., en fonction si c'est des producteurs individuels ou collectifs.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres visions, enfin voilà, pas forcément des questions, mais si vous avez... sinon, est-ce qu'on peut...
Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, mais peut-être que demain, j'évoquais les entreprises utopistes où ils intégraient tout dans leur système, mais on peut très bien imaginer que ces entreprises utopistes soient maintenant sur un territoire donné, c'est-à-dire qu'on revienne... alors ça a existé aussi de l'économie circulaire et l'idée c'est aussi de dire bah voilà dans une économie où on est un peu secoué de dire que l'économie circulaire, notamment l'énergie, notamment le troc, peut être aussi une réponse les monnaies locales c'est un peu l'idée de dire qu'on va pouvoir s'organiser entre nous parce que ça donne effectivement un développement local et l'industrie redevient ou la production redevient au service du territoire. Et je pense qu'il y a aussi ça aujourd'hui chez un certain nombre de territoires qui se sentent un petit peu... ils ne veulent plus contribuer au national.
Oui, André, tu présentes.
Oui, André Brouchet, Eco Business Angels. Plutôt que de parler d'économie circulaire, ou plutôt de plus en plus, on va parler d'économie spiralaire. Car, bien sûr, le cradle to cradle, c'est-à-dire le retour par l'économie circulaire à un état antérieur qui remettrait, je dirais, les choses à plat et dans un état justement antérieur. Dans la réalité, c'est impossible, puisque le temps passe, les choses changent, et comme le dit Isabelle Delannoy dans son dernier ouvrage qui est paru le 4 octobre, l'économie symbiotique, l'évolution se fait sous forme de spirale. On n'a qu'à penser au ressort pour donner une image à cela. Et parler d'économie circulaire, c'est très à la mode, ça correspond d'ailleurs à une tendance forte, mais il faut se souvenir que le nouvel état dans lequel on est après avoir fait une opération de type économie circulaire, en fait, fait avancer les choses, puisque le contexte est différent, et c'est comme ça que petit à petit, les choses évoluent. Et je voudrais en venir à Jacob. Je ne connais pas Jacob, mais si j'ai bien compris, c'est un ensemble d'entrepreneurs qui se réunissent pour avoir des meilleures conditions par rapport à leurs fournisseurs. Je ne sais pas trop, donc j'étais personnellement intéressé par cela, mais je voulais parler de cette économie spiralaire dont personne ne parle pour l'instant, mais dont on va parler peut-être de plus en plus dans les mois et les années qui viennent.
Peut-être déjà une précision sur Jacob, et puis ensuite une réaction sur cette question.
Donc nous, on est une plateforme qui regroupe des entrepreneurs qui acceptent de travailler contre des partages sur les réseaux sociaux. En gros, ils ont de la pub sur les réseaux sociaux personnels qu'ils ne peuvent pas toucher forcément, qui est plus qualifié que de faire de la publicité directement dans les grosses centrales. Et c'est des choses qualifiées. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé avec l'entreprise Dupont. Et donc, comme ça apporte de la visibilité à l'entreprise. Et donc, nous on monétise, on donne une valeur aux réseaux sociaux.
Si vous voulez réagir, sinon, est-ce que sur l'éducation à l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez faire part chacun de votre démarche ?
Alors, nous avons mis en place l'année dernière la première édition d'un concours de start-up. Alors, pour la première édition, nous avions pris les trois classes de BTS deuxième année, BTS négociation relations clients, BTS communication, BTS design graphique médias numériques. Et nous leur avons demandé... ils ont fait des tests pour voir quel profil ils avaient, alors de manière succincte, mais savoir est-ce qu'ils étaient plutôt managers, plutôt porteurs de projets, est-ce qu'ils avaient des idées, et puis voir un petit peu dans quelle catégorie chaque étudiant se plaçait. Et ce concours se déroule sur deux jours intensifs, c'est 8h-19h. Le premier jour, ils ont les porteurs de projets. Alors l'année dernière, sur 90 étudiants à peu près, environ 95, nous avions 15 porteurs de projets, à notre grande surprise. On se demandait, le matin même, on ne savait pas en arrivant à 8h si on avait suffisamment de projets. On a eu la surprise d'avoir 15 porteurs de projets. Ils ont eu une minute pour présenter dans un pitch quelle était leur idée et fédérer une équipe autour d'eux. Ils se sont ensuite mis au travail pour travailler sur leur idée, la développer. Sur ces 15 porteurs de projets, il est resté 11 équipes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du déroulement du projet, dans l'après-midi du premier jour, on a 4 équipes qui se sont rendues compte que leur idée n'était pas suffisamment construite. Ils ont gardé leur idée. Ils vont la travailler, puis la présenter ailleurs, voire différemment. Et les autres ont su fédérer autour d'eux des compétences différentes pour pouvoir mener à bien leur projet. Bien évidemment, pour encadrer tous ces étudiants, nous faisons appel à 30 coachs professionnels par demi-journée avec, on va dire, une couleur différente. C'est-à-dire que la première journée est surtout sur la réflexion, le contenu du projet. On a eu, par exemple, un projet de start-up sur une idée. Nous, en tant qu'adultes, je vous dis tout de suite qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, nous on ferait jamais ça. Je suis invitée à une soirée, j'ai été chez des copains, je suis partie avec mon jean et je sais pas où, et j'ai besoin d'un costume pour cette soirée-là, d'être bien habillée et tout, donc je vais rechercher avec mon application qui veut bien me louer son costume pour la soirée. La chemise, le costume, voilà. Nous, ça nous a paru bon. Mais ils ont su, à l'aide de coach, développer leur idée, leur application. Et voilà, donc on a eu donc sur les deux jours, les coachs sont soit des entrepreneurs, des directeurs financiers, des directeurs commerciaux, qui viennent. On s'est rendu compte pour cette année, on fera attention, par exemple, les financiers, il ne faut pas qu'ils viennent le premier jour. Ils ne servent à rien. Parce que c'est l'élaboration du projet. On a besoin du marketing, de la réflexion sur le contenu. Alors évidemment, on ne les laisse pas comme ça. On travaille avec une société qui s'appelle Visionary, qui a mis sur pied le projet, Pierre Alzingre, et ils ont un plan. C'est-à-dire que les gamins, on ne les laisse pas tout seuls avec leur idée sans savoir comment il faut qu'ils mettent sur pied leur projet. Donc ils suivent un plan, ils ont un timing. Le premier soir, dans un pitch de 2 minutes, ils doivent présenter l'avancée de leurs travaux. On est impitoyable, à 2 minutes précises, on les interrompt. Donc ils se rendent compte que pour le lendemain, quand le rendu du pitch devant le jury, il va falloir présenter quelque chose de très structuré. Ça leur sert énormément. Et le lendemain, ils avancent comme ça. Et l'après-midi, on a le deuxième jour, on a le jury. Et donc voilà. Et on a, grâce à ce concours, on a eu 2 étudiants qui ont décidé d'aller concourir à l'IAE de Montpellier, un concours qui s'appelle le Créathlon, donc création d'entreprise. Ils ont remporté le premier prix avec du financement, l'hébergement dans des labos de start-up, un accompagnement, voilà. Et cette année, nous allons recommencer, mais nous allons associer aussi des classes de seconde. Je prends la société Visionary parce que j'ai besoin d'animateurs, parce que manager 120 ou 130 gamins en équipe, plus 30 coachs par, par demi-journée. Moi, je suis sur la logistique derrière, donc c'est vraiment énorme. Et pourquoi, par rapport à entreprendre, pour apprendre, on ne prend pas? Parce que ça correspond aux étudiants de BTS, c'est-à-dire une très forte mobilisation sur 2 jours. C'est quelque chose qui leur convient. Et entreprendre pour apprendre, dilué sur l'année, ça ne les mobilise pas du tout. Et là, on a vu, pour vous dire le point positif, des gamins qui sont absentéistes à la première heure de cours, même quand ça commence à 9h le matin, être là à 7h30 pour être sûr de, de bosser. Et on se rend compte, voilà.
On pourra revenir ensuite, mais je vous laisse réfléchir. Après, je donne la parole aux 2 autres intervenants. Je sais qu'il y a des questions dans la salle, mais réfléchir peut-être sur cette question. Est-ce que toute la communauté éducative est derrière? Ou est-ce qu'il y a des freins ou des rejets? Enfin, je vous répondrai après. Oui. Et d'autre part, là, c'est les premiers de cordée, pour prendre une expression qui fait floresse en ce moment. Que sont les autres? Enfin, ceux qui sont dans l'absentéisme, qui viennent peut-être pas souvent. Enfin, je vous laisse réfléchir et après vous répondrez. Monsieur Bulan, d'abord, sur ce thème de l'éducation, est-ce que vous y participez? Sous quelle forme? Et puis après Jean-Marc, et puis j'oublie pas les questions.
Donc nous, on a la chance d'être incubé à Sud-Ouest. Donc voilà, donc, groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Et il y a quelques semaines, ils avaient organisé un hackathon. Donc nous, on a participé en tant que start-upers. Est-ce que c'était les deux, c'était sur la presse, donc hors de notre cœur de métier, mais ils avaient quand même besoin de start-upers. Et donc on voit les relations qui peuvent se créer entre des étudiants et les entrepreneurs. Donc voilà, c'est...
Ok, Jean-Marc, sur entreprendre pour apprendre, tout le travail aussi que tu fais d'accueil dans l'entreprise de personnes très diverses. Enfin, voilà, est-ce que tu peux, sur ce thème de l'éducation, partage de l'entrepreneuriat?
Oui, je crois que, ce qui me paraît important, donc je suis vice-président Entreprendre pour apprendre, qui est une association à la fois régionale, à la fois nationale et internationale, qui a pour but de faire des mini-entreprises aux collégiens. Lycéens, bac pro, école de la deuxième chance, université et BTS. Et le but, c'est de, un peu comme exactement ce que vous dites, de les mettre autour d'eux les ressources pour qu'ils puissent développer leur projet qui est sur la base d'une idée et qu'ils puissent la développer et la promouvoir. Alors, nous, on n'est pas sur la même échelle de temps, nous, on est sur une échelle d'une petite année scolaire. Et pourquoi? Parce que pour produire et fabriquer, il faut un peu plus de temps que 2 jours. Donc on est aussi dans la production d'objets. Moi, ce qui me paraît important là-dedans, c'est ce que vous avez dit, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu perdus par rapport à ces savoirs théoriques, le modèle de l'éducation qu'on a aujourd'hui, et qui ne se retrouvent pas là-dedans. Et c'est pas parce que pour eux, c'est pas assez concret. Et du coup, à travers cette petite expérience, ils mesurent à quel point il y a des choses qui peuvent être plaisantes, et ils relient en fait les activités, c'est pour ça qu'on appelle ça entreprendre pour apprendre, ou faire pour apprendre, ils font la connexion entre à quoi ça peut servir des règles mathématiques pour faire le bilan comptable éventuellement de la start-up ou du produit qu'ils vont vendre. Et je vous promets que quand on fait des... ils préparent leur produit, ils ont une petite année pour ça, et puis il y a un salon régional. Et ben je vous dis, la capacité et la créativité des jeunes, c'est absolument extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Et puis, pour les gamins qui sont un peu en difficulté, c'est un point positif. Et puis aussi, ça donne un rapport qui est différent entre l'éducation et l'entreprise. C'est ça qu'on essaie de faire aussi, de dire, l'entreprise, c'est simplement... la forme d'entreprise qui est véhiculée là-dessus, c'est se réunir, faire quelque chose ensemble pour un moment donné, et se produire ensemble, ça produit de la richesse. C'est ça que ça veut dire, la richesse de l'idée. Et on a, en France, on n'est pas très, très fort sur le collectif. Et donc l'idée, c'est de dire, à partir de ça, on va pouvoir... se réunir ensemble, partager, c'est ce qui nous permet de réussir et d'affronter aussi un certain nombre de difficultés qu'on a l'habitude de traiter tout seul face à sa copie blanche. Et là, on peut les traiter ensemble. Et un troisième point qui me paraît aussi fondamental, c'est qu'on met autour du projet les chances qu'ils réussissent. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en France, généralement, je généralise à outrance, mais... si vous voulez créer quelque chose ou faire un projet, vous devez aller voir votre banquier, votre expert comptable, la chambre de commerce, les impôts, la CCI, et j'en passe. Et là, en fait, ils sont tous autour de vous et ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, ils sont en support. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est donner les moyens pour que les projets réussissent. Mais ça suppose que les gens qui sont autour des projets... les soutiennent et ne soient pas des obstacles ou pas centraux dans la démarche. Et ce que vous dites par rapport aux financiers, oui, nous, les financiers, ils viennent à condition qu'on les appelle. Mais pour donner des éléments d'éclairage, mais pas être le point central de l'alpha et l'oméga du projet, qui, à mon avis, est la réussite de...
Voilà, il faut faire... Au long des deux jours, on a des métiers différents, des personnes avec des métiers différents qui viennent, des entrepreneurs, des start-upers, mais aussi des banquiers, des financiers, des ressources humaines aussi, parce que certains prévoient d'avoir une société avec des salariés, pas que des start-up, et ils doivent présenter tout. Et là, ce que je dois dire, l'année dernière, on a réussi... on avait des étudiants qui avaient des idées, on s'est rendu compte, mais qui n'en parlaient à personne parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique leurs idées. Et on a réussi à leur faire comprendre que tout seul, on ne peut pas. On ne peut pas rester tout seul. Il faut travailler avec une équipe autour de soi, avec des gens qui soutiennent et qui, ils ne peuvent pas démarrer tout seul dans leur coin. Ça, c'est pas possible.
Voilà. Et puis, j'ajouterais quelque chose, c'est que... notamment, moi je travaille beaucoup avec les étudiants, donc université, école d'ingénieurs, IAE, etc. Et on s'aperçoit de quelque chose, c'est que en fait ils sont un peu perdus par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et une des difficultés, c'est que aujourd'hui vous avez un master 2 de chimie, vous savez pas ce que vous aimez faire et vous avez pas de métier qui correspond. En fait, le métier n'existe pas où il y a. Tellement de métiers possibles qu'il n'y a pas de métier en fait. Et donc l'idée de faire cette petite expérimentation, c'est aussi dire il y a plein de choses possibles dans l'entreprise, il y a plein de métiers d'ailleurs qu'ils ne connaissent pas dans l'entreprise, et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Parce que c'est ça, la difficulté aujourd'hui, c'est construire en parallèle de son diplôme un espèce de parcours de vie de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et ça, ça prend du temps. J'aime bien cette notion de temps, mais savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime, bah, ça prend du temps. Et malheureusement, en fait, quand on est dans le système aujourd'hui d'éducation, on nous demande de choisir rapidement, mais on ne prend pas ce temps de la réflexion. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui ont des doctorants et qui n'ont pas de débouchés. Alors voilà, il faut aussi, à un moment donné, avoir une société non pas de bac plus 25, hein, ça c'est, mais aussi des gens qui se sentent bien dans la société, voilà. et qui contribuent à son développement économique, culturel, éducatif, etc.
On prend quelques questions et ensuite...
Je voulais juste préciser qu'on n'a pas que cette action de concours, parce que dans le lycée, j'ai 6 rencontres métiers autour de la communication, du design, de l'art, parce que j'ai 2 BTS dans ce domaine-là, que j'ai des terminales L et beaucoup de sections art, cinéma, audiovisuel, que j'ai une rencontre par mois avec des professionnels qui viennent échanger, qu'on fait des ateliers avec des professionnels et des stages dating, c'est-à-dire que les professionnels viennent, ils ont besoin de stagiaires, ils viennent dans le lycée. Et les étudiants, après avoir fait leur atelier CV, simulation d'entretien, viennent se présenter directement. Et nous avons eu des personnes qui ont besoin de stagiaires dans des endroits, si je puis dire, que les étudiants ne pensent pas contacter. Par exemple, l'Opéra de Montpellier a besoin d'un designer graphique en stage. Et aucun étudiant n'a pensé à déposer sa candidature auprès de l'Opéra. Voilà. Donc on a régulièrement, plusieurs fois par mois, des professionnels dans le lycée tout le temps, okay. Dans tous les domaines.
Okay. On reviendra sur ces... Juste pour alimenter aussi un peu votre réflexion, il y a eu 2 succès, bah, je vais prendre cela, il y en a d'autres, 2 films. Merci patron de Ruffin, et puis le dernier en date, c'est le jeune Karl Marx. Donc par rapport à ces questions... Au fond, d'opposition. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que toute la communauté éducative est derrière vous? Voilà.
Oui.
Mais vous pensez le temps d'y réfléchir.
Non, mais oui.
Une question enfin, de Mme Fournier. Non, mais vous prenez le temps, prenez le temps.
Oui, juste pour ce... Oui, je vais me présenter. Françoise Fournier de Cap Science à Bordeaux, en charge de la dynamique de culture scientifique sur le territoire de l'ancienne Aquitaine. Et donc, en fait, je rebondis sur... En vous écoutant, en fait, ce qu'il apparaît pour ce qui est de l'éducation, pour ce qui est de la formation, on a vraiment besoin d'avoir des actions à, un peu en poupée gigogne, à différents âges, pour différentes cibles, etc. Ça n'empêche pas de faire des concours, des hackathons sur 2 jours. Et puis, je suis d'accord avec vous, on a besoin de temps aussi pour monter des projets. Et puis, il faut toucher les gamins de primaire et puis jusqu'au supérieur. Et donc, à ce titre, j'ai juste 2 petits témoignages à vous donner. Le premier, au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est un projet superbe pour mettre en valeur justement les enfants, les décrocheurs, ça s'appelle Course en cours. Je ne sais pas si vous avez été très très actif en Aquitaine pendant des années, mais ça demande beaucoup d'énergie de la part des enseignants qui portent ça, en partenariat entre l'IUT, des enseignants, des établissements scolaires de toute la région, pour faire, ce sont des petites voitures de course en fait, qui sont designées, qui sont usinées, qui sont préparées, qui sont pour un concours final où les élèves sont en équipe et doivent créer une petite entreprise, puisque c'est finalement une écurie de Formule 1 miniature, et ils ont des tas d'épreuves, dont la CAO, dont plein, et ils touchent à tous ces problématiques de l'entreprise, du marketing. Il faut qu'ils aillent trouver des sponsors pour leur stand. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, intégré tout au cours d'une année scolaire, est très, très révélateur de talent chez les jeunes qui... pour qui l'enseignement théorique est complètement repoussoir et ils n'y arrivent pas. Donc ça, c'est pour ces tranches d'âge dont vous parliez d'entreprendre pour apprendre. Et après, ce que je voulais vous parler d'une opération, d'une innovation qui est en ce moment menée par l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Donc c'est dans le supérieur, là, école d'ingénieurs renommée, et qui démarre cette année une nouvelle école de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui a comme objet justement de sortir des étudiants de leur grande école où on leur pour la tête de choses qu'ils doivent savoir par cœur, c'est très bien comme ça, pour rentrer dans l'action et dans l'entrepreneuriat, développer leurs propres projets. Donc ils ont, et ils sont de plus dispatchés sur le territoire. Donc nous, on en accueille 3 à Cap Science, il y en a Bordeaux Unitech, il y en a un peu partout sur le territoire français. Bon, c'est une toute petite promotion cette année, c'est une expérimentation, mais je voulais souligner le fait que ouais, même l'enseignement supérieur, y compris les grandes écoles qui ont des labels très reconnus, pensent à cette problématique de faire aussi, pas que seulement d'apprendre, quoi. Donc c'est intéressant à suivre, on démarre, donc j'espère, enfin il démarre, puisque c'est Philippe Viau, l'ancien patron de l'ENSAM Bordeaux, qui mène cette expérimentation au niveau national. Donc c'est pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre.
Merci pour ces informations. Donc je n'ai pas de réaction et j'élargis un peu encore le propos, puisqu'on a des représentants et on parle aussi beaucoup des sciences humaines. Est-ce qu'on peut justement, sur des formations de sciences humaines, appliquer cette notion d'éducation et d'ouverture à l'entrepreneuriat? Voilà. Allez-y, qui veut répondre? Enfin, pas forcément à cette question, à l'ensemble des points qui ont été évoqués. Madame Sanino, sur la communauté éducative. Toute la communauté éducative est derrière.
Alors moi, au niveau, enfin, quand je suis directeur délégué des formations, je suis dans un lycée technologique, général et technologique, et je ne m'occupe que des sections technologiques. Pour ce qui est de ma part, tous les enseignants contribuent à mettre en relation l'entreprise avec le lycée. On va dire que les quelques remarques négatives qu'on peut avoir, c'est encore dans l'enseignement général, l'ancien prof de français, bon, voilà, qui voit l'entrepreneur comme un bourgeois bien installé avec la seule idée de gagner de l'argent. Bon, mais ça, c'est une remarque anecdotique parce que au niveau des équipes pédagogiques que j'ai, moi, tout le monde est derrière. Et au niveau de trouver des coachs, j'en ai eu trop l'année dernière, tellement j'ai eu de volontaires. On a eu un souci, on avait prévu au départ en octobre, et c'est les fameux juste 2 jours où on était en alerte, je ne sais plus de quelle couleur, parce qu'on était consigné chez nous, on n'avait pas le droit de bouger. Et le mercredi soir à 20h, j'appelais tous les entrepreneurs pour annuler le concours qui démarrait le jeudi matin à 8h. Donc, et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est il n'y a pas de souci, et surtout, dès que vous avez la date, vous nous dites si on est dispo, si je ne suis pas dispo, j'enverrai quelqu'un d'autre. Et on avait vraiment une liste de volontaires au niveau... quand je dis entrepreneur, ce n'est pas que entrepreneur, il y a des salariés d'entreprise, j'ai eu trop de coachs, voilà. D'accord. Et donc, oui, c'est quelque chose. Enfin, c'est vraiment au niveau des enseignants. Moi, ils ont tous amené des coachs. Ils ont tous connu quelqu'un qui voulait venir, qui parfois son banquier, qui des relations par l'époux, le copain, voilà, c'est tout le monde s'est lancé à fond, et devant le succès, tout le monde est déjà, ils m'ont dit l'autre jour, bon, on n'a pas parlé, mais on a déjà notre liste de coach. Ah, bon, voilà. Okay.
Monsieur Bulan,
moi,
ces problèmes de rejet, de questionnement, ça a été évoqué pudiquement, je dirais, l'enseignement général qui commence, qui pose quelques questions parfois,
oui,
quand même.
Je trouve que c'est anecdotique. En technologie, on a beaucoup d'enseignants qui viennent du milieu, enfin souvent, qui ne sont pas que enseignants. Ils ont travaillé avant et ils ont passé les concours de l'enseignement. Donc, ils restent proches de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai moins de soucis. Bon, prof de français, parfois, il est devenu prof de français aussitôt après l'école. Donc, il est resté sur des anciennes idées, on va dire.
Monsieur Bulan.
Moi, je vois plus du côté des grandes écoles et des écoles d'ingénieurs, où avant, ils voulaient avoir une petite vie bien simple, en ayant un emploi en CDI, dans la haute fonction publique, par exemple. Et maintenant, ils veulent tous être start-upers. Ils veulent tous créer quelque chose. Donc, il y a une vraie modification de l'ADN de l'enseignement, et puis même entendre qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans un lycée, moi ça m'enchante, puisque Il y a même 10 ans, c'est de l'entrepreneur, c'était pratiquement un gros mot. Donc c'est une très bonne chose.
Jean-Marc, réaction.
Oui, alors bravo pour ça. Moi, ce qu'on expérimente un peu dans nos pratiques avec la jeunesse et l'entrepreneuriat, deux choses. Un, on a le monopole de l'éducation nationale, qui considère toujours un peu que le seul voie à suivre, c'est son modèle. Voilà, donc avec la bonne hiérarchie qui va bien, les bonnes réformes et contre-réformes en permanence. Du coup, qui ont quoi comme impact ? C'est que les emplois du temps... et les temps libérés pour faire autre chose que le modèle éducatif tamponné, c'est toujours à la marge, donc c'est toujours compliqué, il faut toujours se battre, et ça change tous les ans. Donc voilà, hein, ces grandes institutions, mais qu'on peut, voilà, on peut prendre l'éducation nationale, on peut prendre la banque sous certains aspects, qui sont des modèles qui sont aujourd'hui en train de vaciller sur leur et qui voient bien qu'ils essayent de faire un peu autrement, hein, et de libérer un peu de temps pour faire autrement. C'est ça l'idée, hein. Libérer du temps court pour faire du temps long, pour faire autre chose. Voilà. Et dans ce cadre-là, voilà, il faut se battre un petit peu avec ces règles-là et ces choses-là. Et en même temps, parce qu'ils vous le disent, ils disent « on a besoin de vous, est-ce que vous ne pouvez pas en faire plus ?» Parce que nous, on a 20% d'échecs scolaires, on ne sait pas le faire. Quoi. On sait pas... Notre modèle, nous, c'est la réussite des professeurs. Donc quand vous avez le bon élève qui est en face de vous, forcément, c'est compliqué. Donc ils nous appellent un peu... Elle est là-dessus. Je continue sur l'éducation supérieure. C'est pareil, ils ont besoin, et il y a des filières entières aujourd'hui, notamment de doctorants, qui ne trouvent pas de débouchés. Donc ils appellent à l'aide aussi en disant, voilà, on a des doctorants, des gens qui sont brillants, mais aujourd'hui incapables de pouvoir subvenir à leur... Parce qu'on ne va pas embaucher des doctorants alors qu'on sait très bien que les filières sont bouchées. Voilà. Donc on a des modèles qui ne fonctionnent plus et ils essayent de trouver des solutions, mais sans remettre en cause, sans laisser tirer toutes les conséquences de ces indications-là. Sur l'enseignement supérieur et sur l'ENSAM en particulier, l'ENSAM, ça fait plus de 200 ans qu'ils ont compris ça. Enfin, ça fait partie de l'ADN de cette école-là. De dire que, et du MIT aussi, hein, de réconcilier en fait des savoirs théoriques et des applications pratiques. Et je pense que la vraie intelligence et les vrais modèles de demain d'organisation, c'est celle qui n'oppose pas les uns et les autres, hein, comme le modèle Ford T, où il y avait les ingénieurs des méthodes d'un côté et les ouvriers de l'autre, mais plutôt ceux qui réunissent ces savoir-faire un petit peu longs de main-d'œuvre. Et les savoirs théoriques qu'on peut issus des universités ou des savoirs de la recherche.
Alors, j'ai quand même omis de dire qu'il y a 2 ans, on a eu une entreprise, Entreprendre pour apprendre. Bon, ils n'ont pas gagné au niveau... parce que c'est comme un concours, hein. Il y a ceux qui vont à Paris pour présenter leur projet. Ça avait été possible parce qu'on avait pu, avec 2 classes, en faire 3 en spécialité. C'est-à-dire que quand vous avez 2 classes, vous avez 72 élèves, et on avait fait 3 fois 24 au lieu de faire 2 fois 36. Et donc ça avait été possible. Mais après, quand on vous réduit les moyens, quand le prof il a 4 heures de cours en spécialité avec 36 élèves, c'est difficile, c'est très compliqué. Et quand il ne reste que 2 heures pour pouvoir faire entreprendre pour apprendre, ce n'est pas assez. Voilà. Et pour travailler autrement, 36, c'est trop. C'est vraiment trop. En plus, les salles ne sont pas adapté parce que, d'accord, on met 36 élèves, mais c'est un peu cliché, comme on dit chez nous. Hein, c'est-à-dire que si on veut faire travailler des équipes en groupe, on n'a pas les salles pour. Je parle du niveau première terminale, hein, parce que je n'ai pas la même... c'est pas du tout la même chose pour les techniciens supérieurs. Mais au niveau première terminale, voilà, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources pour pouvoir reconduire ce projet. Qu'on a fait une année qui était bien. Ils avaient inventé une poubelle de récupération des mégots pour qu'il y ait un retraitement derrière au niveau durable, voilà.
Bah nous, à la suite des projets start-up au niveau de donc PA pour l'université, il y a des étudiants qui ont créé leur structure et ils ont pris le statut d'étudiant entrepreneur. Ça existe depuis pas très longtemps et voilà, ils ont continué là-dessus.
Sauf que voilà, ça c'est aussi la disparité. En langue de Roussillon, ça s'appelle pépitellaire, sauf que c'est pas possible pour les étudiants de BTS, c'est pas prévu. Ils sont étudiants, ils sont au CROUS, mais ils peuvent pas être étudiants entrepreneurs quand ils sont en BTS. Voilà. On a déjà posé la question et c'est pas possible.
Ok, merci à vous trois. Moi qui ai encore une question, sinon on passe à la table ronde suivante et on va aborder un thème, c'est musique et créativité, tout en sachant aussi que il peut y avoir de l'entrepreneuriat dans le domaine de la musique. Je pense que ce n'est pas Jean-Marc qui me démentira, puisque je crois que tu étais intervenu auprès du réseau Musiques Actuelles du Poitou-Charentes il y a quelque temps. Donc Alexis Dombrowski, et puis également Pascal Tassi, donc, qui est directeur de l'école des DJ de Tercé. Donc peut-être on commence avec vous, monsieur Tassi, vous présentez cette école. Et en quoi, au fond, finalement, sur le plan économique, est-ce qu'il y a un lien entre le DJ et l'économie, voilà. Et puis ensuite, on parle. Voilà.
Bonjour, merci de m'avoir convié. Je vais essayer d'être synthétique, vous expliquer cette aventure qui est accrochée à une structure associative qui s'appelle l'UCPA, peut-être que vous connaissez, qui a fêté ses 50 ans il y a 2-3 ans. Donc on est vraiment dans une... Enfin, si on parle d'ADN, l'ADN, c'est la jeunesse. Donc ça, c'était le constat premier. Le second, c'est qu'il y a 17 ans, j'ai eu la chance d'être à l'initiative de la création d'une école dédiée à un métier qui s'appelle l'animation musicale et scénique, dont la clé de voûte, évidemment, est le métier de disque jockey, mais pas seulement. C'est-à-dire que, justement, l'idée a été, au départ, d'ouvrir le champ des compétences et de permettre à des jeunes de travailler sur tout un tas de disciplines concomitantes, hein, au fait de diffuser de la musique. Donc ça veut dire c'est la lumière, la vidéo, l'infographie, la musique assistée par ordinateur, l'animation. Enfin, en tout cas, c'est un package complet qui correspondait déjà à l'époque aux attentes d'un secteur d'activité qui était à cette époque-là et qui continue à être en pleine mutation. On pourra en parler tout à l'heure. Et donc ça, c'était le premier constat. Le second, et ça, c'était vraiment un souhait, c'était de concevoir ce cursus dans l'alternance. Donc là, on est vraiment dans une formation qui, dans sa genèse, est les jeunes sont en lien direct, comme vous connaissez le principe, hein, avec le secteur d'activité. Donc on est en prise directe avec celui-ci, et donc on répond à ces attentes qui évoluent au fil du temps. Il se trouve que ce diplôme est un titre homologué, enregistré au ministère du Travail, RNCP, qui nous donne la particularité et la souplesse, justement, de réorganiser ou en tout cas de faire évoluer le cursus en fonction, justement, de cette évolution dont je parlais tout à l'heure. La contrainte positive, hein, c'est que tous les 5 ans, on doit remettre en cause, justement, la viabilité du projet face à la réalité du marché, la réalité de l'employabilité. Donc si on parle de ce sujet-là, sachez, et c'est tout l'intérêt, hein, c'est que les jeunes, évidemment, rentrant dans un cursus par l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation, pardon, vont au départ dans leur montée en puissance de compétences être en prise directe avec le secteur et ensuite vont pouvoir déployer leurs ailes. Alors en termes d'activité, évidemment, dans le secteur dans lequel ils travaillent, en France, ça c'est certain. en Europe, je vous le confirme, et dans le monde également. C'est-à-dire que c'est aussi l'un des intérêts, c'est de se dire que le marché du travail, le nôtre en tout cas, que l'on propose aux jeunes qui sont dans nos cursus, donc c'est une ouverture au monde, ce qui ne veut pas dire que c'est une obligation, mais en tout cas ça ouvre ce champ-là et c'est tout de même intéressant. Donc pour aller garder le rythme de la présentation, donc en 2001, création de l'école à Lyon, et en 2004, donc nous sommes arrivés en Poitou-Charentes à l'époque, hein, donc sur le village de Tercé, sur un site assez particulier. Et cela fait donc un certain nombre d'années maintenant que nous accueillons une cinquantaine de jeunes par an sur un cursus de 18 mois. Donc voilà un petit peu ma présentation.
Pour la présentation. Alexis, à toi.
Allô ? Oui, vous m'entendez ?
Ouais, ça marche, d'accord. Ça marche.
Okay. Bon, je suis un peu ennuyé. Jackie donc, m'a demandé d'intervenir, de faire une intervention sur le jazz et la créativité, d'essayer de mettre ça en lien avec les territoires. Donc, j'ai été obligé de rédiger des choses que je vais vous lire. Parce que j'ai pas eu le temps de les apprendre par cœur, quoi. Ça vous dérange pas? Je vais essayer de mettre un peu de vie dans tout ça, de pas être trop lénifiant. Voilà. Donc, bonjour, c'est écrit sur mon texte. Donc, je m'appelle Alexis Jamil Dombrowski. J'ai 46 ans et je suis depuis 1990 musicien de profession. Et accessoirement, lorsque la conjoncture le permet, je suis intermittent du spectacle. Le monde économique tel qu'il est depuis une trentaine d'années ne nous permet pas de vivre de la vente de nos prestations sans l'aide des collectivités, à savoir les ACEDIC, le ministère, les conseils généraux, départementaux, régionaux, les villes, les villages, l'intermittence, l'université. L'intermittence a été créée pour pallier à l'effondrement de la demande et à l'explosion de l'offre. Explosion due au fait que la qualité de la formation artistique et sa démocratisation, comme on a vu à côté, ont fait l'objet d'un effort et d'un investissement considérable à l'époque de ce qu'il est convenu de nommer l'ère langue. Il y a eu vraiment une explosion du niveau de tous les acteurs du secteur culturel, technique, musiciens, peintres, tout. Bon, les raisons de l'effondrement de la demande sont plus complexes et sujettes à polémique, mais le fait est qu'à l'heure actuelle, un musicien, aujourd'hui, ne peut plus se contenter de bien jouer de son instrument. Il doit connaître également la filière dans laquelle il veut s'insérer, les dispositifs d'aide existants et savoir monter un dossier de demande de subvention. En définitive, il doit savoir se vendre et pour cela endosser les métiers d'administrateur, de régisseur de production, de manager, de producteur, de label, d'attaché de presse. On doit tout faire. Voilà, il faut qu'on fasse fonctionner nos deux hémisphères cérébraux tout le temps, quoi. Et alternativement. On a du mal, pas tous. Hein. Bon, je me permets quand même de me présenter à vous, et surtout je vais vous raconter succinctement d'où et surtout de qui je viens. Ce qui permettra sans doute de vous éclairer sur mon point de vue quant à la créativité, au jazz, à l'identité et même un peu au territoire. Vous allez comprendre pourquoi, je vais essayer de faire vite. Mon père, Vania Dombrowski, est issue de l'union de Stanislas Dombrowski, peintre hongrois, et de Zara Buré, étudiante marocaine, en 1949. Mon grand-père Stanislas est lui-même issu de l'union de Ladislav Dombrowski, peintre russe, aristocrate, devenu par la force de l'histoire peintre hongrois en 1917, et de Elvira Bernstein, alors secrétaire particulière du duc de Hauptstein. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Zara, ma grand-mère, donc franco-marocaine, et issue du mariage de, écoutez-moi bien, El Hadj Abdelhaman Moïse Timothée Buré. Jeune français du début du XXe siècle, converti à l'islam, à l'instigation de son père, lui-même zouave du pape. J'ai les preuves, j'ai les échanges, j'ai les lettres. Moi, Moïse, donc, fut recteur de l'université de Rabat, imam soufi, traducteur du Coran, violoncelliste amateur, pionnier du naturisme. Il avait sa plage privée, et il était l'auteur d'un dictionnaire franco-marocain dialectal qui a fait référence jusqu'à ce que vraiment le vocabulaire général change, quoi, parce que c'était dans les années 50. Suite à leur union, qui n'a pas été vraiment approuvée par le côté marocain de ma famille, mes grands-parents ont émigré à Budapest, et puis survint les événements de 1956. Ma grand-mère et ses trois enfants, mon père, mon oncle et ma tante, donc, purent s'enfuir au Maroc du fait qu'ils n'étaient pas hongrois. Et mon grand-père leur promit de venir au plus vite. Mais son âme, un tantinet dostoïevskienne, tourmentée et romantique, lui fit prendre quelques détours avant d'arriver à Rabat, mais finalement en 67. Il a pris du retard, il a fait d'autres enfants. Et il est revenu en Hongrie, puisque ça ne marchait pas très bien avec ma grand-mère, l'absence avait été longue. Et il a été chassé de la Hongrie après avoir tenu des propos vraiment peu amènes sur l'état de la création et de la créativité en Hongrie, donc, sur une radio nationale à un pic d'audience de l'époque. Il a fallu qu'il parte très vite, et étant le père de trois enfants de nationalité française, il s'est permis de demander sa naturalisation, ou tout au moins un statut de réfugié politique à l'institution française, au ministère concerné de l'époque. Mais justement, à cette époque, les Polonais qu'on naturalisait étaient plutôt ouvriers. En fait, on naturalisait plutôt les ouvriers que les peintres. C'est encore une histoire d'offre et de demande, au final, mais de l'époque, quoi. Alors voilà. Mon grand-père a été accueilli à bras ouverts dans une Norvège, fraîchement libérée de la tutelle suédoise, et dont les critères d'intégration n'étaient, semble-t-il, pas les mêmes que les nôtres. La société scandinave, que j'ai pu connaître un peu, dans son ensemble, est très axée, justement, sur la créativité et sa stimulation dès l'enfance et tout au long de la vie et dans tous les corps de métier. Et je crois que si les Scandinaves font ça, c'est pas par humanisme, c'est vraiment par pragmatisme. C'est l'effet qu'ils m'ont fait, quoi, d'être des gens très pragmatiques. Voilà, ma mère, c'est un peu moins romantique, elle est issue de la campagne bordelaise, mais comme mon grand-père faisait partie des enfants très doués, ses études ont été financées, il est devenu ingénieur, et à l'époque, c'était quand même très très intéressant d'aller travailler à l'étranger. Donc mes parents se sont connus à Rabat et ont émigré en 70 à Poitiers en France. Poitiers, où je suis né, et où, avec un léger sentiment de trahison de ma famille, je vis encore. Je me sens pas tout à fait dans le schéma familial, mais bon, je suis encore jeune. Mais il y a une logique à cela. Il y a une logique au fait que je sois à Poitiers, parce que Poitiers, c'est une ville d'art, c'est une ville d'histoire, et surtout, c'est la terre d'élection d'une des plus vieilles universités du monde. Donc, du monde chrétien. Donc, Poitiers est par essence un des plus hauts et des plus anciens lieux des confluences culturelles. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, à propos des confluences et des synchronies, j'ai entendu cet été un philosophe, que je vais appeler Monsieur O, expliquer le concept de la découverte des techniques du feu par la synchronie. Voilà. Il a expliqué avec beaucoup d'assurance que c'était impossible qu'un Cro-Magnon portugais aille faire profiter quelques préhumains chinois de ses connaissances et en retour profiter des leurs, du fait, selon lui, de l'absence des moyens de locomotion adéquats. Il me semble pourtant qu'en marchant 10 km par jour, en un an, on fait plus de 3000 km. Si on prend ses RTT, si on ne les prend pas, on en fait 3500, voire 3650. Et en plus de ça, les paléontologues sont vraiment formels là-dessus. Nos ancêtres étaient beaucoup plus performants physiquement que nous. Ils marchaient plus vite, ils couraient plus vite, ils étaient plus résistants. Voilà. Bon, une étude sérieuse des musiques du monde sur plusieurs siècles, montre effectivement d'immenses ressemblances dans les musiques traditionnelles et m'amène à penser que c'est à la faveur des multiples et anarchiques, diront les anarchistes, mouvements des âmes, des hommes, des continents et des territoires naturels, que se sont développées de nouvelles espèces et de nouvelles cultures. Des nouvelles espèces animales, les tigres existent, mais c'est la même chose que les lions, c'est juste une histoire de continent, quoi. Et c'est pareil pour l'humain, il y a eu des nouvelles cultures. Ce serait donc de la friction, de la mixion, de la confrontation que naisse la nouveauté, que l'on appelle la création. La création, c'est un concept un peu divin, parce qu'elle prétend naître du néant ou de la volonté de Dieu. Moi, je crois que ce que l'on nomme créativité est fondamentalement l'art de composer avec le contexte dans toutes ses échelles, en quelque sorte. L'art serait la transfiguration du cosmos, quelque chose qui passe à travers nous et qui en ressort, selon l'auteur, et éventuellement son public, magnifié. En ce sens, il est frappant de constater que l'enfant, en tout cas dans la société occidentale, de 2-3 ans, éprouve une fascination pour ses excréments, qui sont en sorte, et de manière philosophiquement défendable, leur première œuvre conscientisée, et même, souvent, applaudie par l'entourage. « Oh, mon chéri, bravo, oh, quel beau caca !» C'est la première œuvre créée et saluée, en quelque sorte. C'est important. Bon. Maintenant, je vais vous parler de la créativité. parce que ça, c'est un domaine très complexe, c'est un mot très large. La créativité dans les domaines de l'art est très complexe à définir de façon commune à toutes les cultures. Donc moi, je vais me référer à Lévi-Strauss. Si on reprend un peu son illustration, il existe des sociétés froides et des sociétés chaudes. À mon avis, il existe aussi des sociétés tièdes, c'est-à-dire des sociétés traditionnelles mais non expansives. Enfin, non, qui sont un peu opposés au progrès technique. Donc, bon, Lévi-Strauss y définit les sociétés chaudes comme conçues sur le principe d'expansion et de progrès technique avec des stratégies agressives, éventuellement, même souvent, impliquant des bouleversements importants et brutaux dans des populations colonisées et déplacées, obligées de se réinventer à chaque exode. Les esclaves noirs américains, par exemple, n'ont pu se regrouper en communauté. On n'a pas mis les Soudanais chez M. Benson, et les Congolais chez M. Maurice. Ils ont pris soin, justement, vraiment, de tout mélanger. Quoi. Voilà. En fait, les esclaves noirs américains n'ont pu se créer une identité qu'à travers leur degré de négritude et le statut social que cela impliquait. Et le jazz est le vivant symbole de cette violente confrontation entre les sociétés chaudes et les sociétés froides. Mais ne soyons pas trop positifs. C'est un des très rares symboles positifs. Car si les Noirs chantaient le blues, c'était pas pour rien. Ils faisaient pas leur calimero. Ils étaient vraiment dans une situation très difficile, vous le savez. Quoi. Bon, les sociétés froides disparaissent en masse et prônent, elles, qui disparaissent en masse, prônent le contrôle des naissances, le respect des traditions et voient la vie comme un cercle. Et tout acte est en quelque sorte ritualisé par le religieux ou le spirituel. Certains penseurs prétendent que leur création, de quelque nature qu'elle soit, ne relève pas de l'art, car ce sont des chants, des danses, des œuvres graphiques ou plastiques qui seraient produites dans le cadre de rituels, donc dans un but fonctionnel. D'où l'on pourrait déduire que cela ne serait pas de l'art parce que fondamentalement il y aurait une recherche de rentabilité. En poussant le raisonnement, on peut en toute logique affirmer que si le boléro de Ravel était une danse de la pluie, ce ne serait pas une œuvre d'art. En fait, ce qui caractérise les musiques traditionnelles d'un point de vue occidental, c'est leur immobilisme, leur intangibilité. Ainsi, nous percevons le chant pygmée comme une image de la naissance de l'humanité. J'avais amené des exemples, mais là, on n'a pas le temps. Je ferai le DJ une autre fois. Nions, hein, parce qu'on les voit comme une image de la naissance de l'humanité, mais ne soyons pas ethnocentriques, ne nions pas que ce sont des individus qui chantent, dansent et vivent dans le même espace-temps que nous. Et que seul le hasard nous rende mutuellement distants les uns des autres. Il existe, dans toutes les cultures, des musiques traditionnelles avec un ensemble de règles très précises et contraignantes à respecter. Des danses aussi, toutes sortes d'arts. Les sociétés encore stables, du point de vue de la structure familiale, du fait de la capacité de contrôle et de la primauté de la communauté sur les individus que cela implique, sont beaucoup plus richement dotées en musique traditionnelle, mieux conservées dans leur diversité et bien mieux transmises, que dans notre monde occidental, actuellement plus plastique et soucieux de la primauté de l'individu sur la communauté. C'est un fait. Moi, je ne fais pas de jugement là-dessus. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est une réalité. Alors, je vais vous reparler un peu du jazz. Le jazz implique souvent la notion d'œuvre nouvelle, écrite sur commande et qui présente tous les aspects de la modernité telle qu'on la conçoit dans notre société, telle qu'elle est conçue dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire nécessairement en rupture avec la tradition, ésotérique et d'avant-garde. Or, le jazz et les musiques improvisées ne sauraient se conformer à cette vision restrictive pour la simple raison qu'elles ne cessent de revisiter le passé pour aller de l'avant. Ce constant aller-retour est une des caractéristiques qui fonde son identité. C'est même peut-être quelque part fondamentalement le principe de l'identité au sens général du terme. Alors, je vais vous donner mes conclusions de tout ce que je viens de vous dire. J'essaie de m'y retrouver. C'est toujours à l'occasion de bouleversements majeurs que l'être humain, ou même l'animal en fait, que toute espèce est obligée de se réinventer. Il se trouve que le jazz est l'expression d'une population extraordinairement souffrante et ostracisée, mais que le soutien dont elle a pu bénéficier de la part d'un pays qui considère, donc les États-Unis, toute subvention d'État comme liberticide, et c'est vrai, c'est vraiment leur opinion, en fait, ce soutien de l'État arrive à la faveur de la guerre froide, contexte dans lequel il s'agissait, pour les Américains, de se montrer comme puissance créatrice et novatrice face à une Union soviétique adepte de l'excellence et du classicisme. Ainsi, la CIA a-t-elle financé via des sociétés philanthropiques le jazz moderne et l'art moderne, globalement, quoi. La danse, la peinture cubiste, ainsi que l'art pictural. C'est la guerre, en fait, par ce qu'il est convenu d'appeler le soft power. Il s'agissait vraiment, c'était la guerre d'image, quoi. Il n'y avait pas que des histoires d'aller sur la Lune, quoi. Et si la CIA est passée par des sociétés philanthropiques, c'est parce qu'aux États-Unis, toute création passe par le mécénat, qu'un directeur de scène nationale, ça n'existe pas. C'est un producteur, c'est quelqu'un qui cherche et qui estime que ce qui est vecteur de liberté, c'est la multiplicité des investisseurs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, bon, le mur est tombé quand même. On a changé de paradigme. Et cette formidable créativité s'est lentement dénaturée au fil des années 70. Quand il n'y a plus d'adversité, plus d'autre souhait que de vendre du jazz, plus de soft power idéologique, juste de la recherche de profit, donc du soft power économique, le jazz est devenu mainstream et se standardise comme n'importe quelle musique de variété, et les musiciens américains n'ont plus la radicalité politique ni même l'intensité intellectuelle d'un certain nombre de leurs aînés. Ce sont pour la plupart des produits de l'institution, car étant rentable, l'apprentissage du jazz autrefois anarchique s'est transféré dans les universités, dont la plus emblématique est la Berklee School. Fabrique de clones super bien entraînés, capables de tout interpréter, mais à mon avis dans l'impossibilité de se réinventer, et même pas dans la possibilité humaine. Le cas de la France, il est sensiblement identique. Il n'y a plus de sens spirituel à aller dans les festivals de jazz, qui sont devenus de véritables officines touristiques où l'on ne vend que ce que l'on imagine satisfaire le public et par conséquent le tissu économique local. Le réseau des salles est très cloisonné et ce qui manque à cette musique, c'est essentiellement le monde de la nuit. Réellement. Le moment où les gens se rencontrent. C'est le contact. Cette baisse de qualité, elle se vérifie dans le cinéma aussi, elle se vérifie dans les journaux. Je vous invite vraiment à comparer une édition, un article par exemple du Nouvel Obs en 79 et en 2017. La différence, elle est quantifiable en termes de quantité d'informations est énorme. Et je ne parle pas de l'appauvrissement hallucinant du champ sémantique. Le principe du mainstream, c'est de populariser, en l'occurrence, l'art, ce qui implique une standardisation du goût et de la production afin, mathématiquement, d'alimenter les gains économiques de producteurs de moins en moins nombreux. Il y a un mainstream de l'alimentaire, par exemple, qui privilégie l'aspect visuel au détriment du goût et de la diversité, avec le danger à court terme de la perte de mémoire, donc de la culture même du goût de la tomate, par exemple. Il en va exactement de même pour le jazz. On assiste de plus en plus à des performances artistiques caractérisées par l'exubérance physique des interprètes, dans leur vêture, dans leur gestuelle. Il s'agit de se démarquer, de faire le buzz. Et si le sens de l'aliment, c'est l'individualité de son goût et la diversité de sa famille, l'individualité de la tomate, il en va de même pour le jazz, dont le sens se trouve dans le son, la novation, le fond et l'intention. Autant d'éléments qui ne sont, selon les majors, rien au regard du visuel et de l'identitaire, de la marque qui seule peut faire vendre en masse. Ça, cette vision du mainstream, c'est l'annonce d'un appauvrissement et d'un dérèglement de la créativité, parce que ça dépend d'un système de production qui est malheureusement de plus en plus pyramidal aux États-Unis aussi, à l'instar d'un État totalitaire en fait. Or, un État totalitaire peut, en matière artistique, produire de l'excellence, tout ce à quoi on a accès est excellent en matière de qualité technique, cinéma, ils font tous 1h38, rien n'est libre, la qualité technique est énorme, mais sous dictature, on ne peut pas créer de nouvelles formes. Donc, à mon avis, il faudrait conceptualiser un mainstream de la complexité, c'est-à-dire ériger les valeurs de la complexité comme nécessaires à l'évolution de notre société. Donc, faire étudier le latin, le grec, la philosophie à nos enfants, qui, évidemment, ne seront certes du coup pas de dociles consommateurs. Ce qui obligera les acteurs dominants du système à investir dans la diversité, et donc à être plus créatifs. Et donc, du fait de cette diversité, sera nécessaire la stimulation de la créativité à tous les étages de la production, économique, musicale, artistique, mais dans tous les domaines, à mon avis. C'est la seule porte de sortie. Après, J'ai presque fini, excusez-moi. De grands bouleversements sont à prévoir. Il y a des vagues de réfugiés syriens, des vagues de réfugiés climatiques qui vont déferler, qui vont être énormes. Et si nous savons les recevoir comme des individus, et que surtout nous ne les enfermons pas dans leur communauté, il est à prévoir que nous pourrions jouir d'un formidable élan de créativité. Les Allemands l'ont très bien compris, et ce sont des gens pragmatiques. Dans une société brûlante, parce qu'on n'est plus dans une société chaude, là, ça brûle, quoi. La solution, donc, n'est plus à l'expansion, ni au repli, mais au contraire, à l'ouverture à l'autre, à l'altérité, à l'étranger, à l'étudiant, à la fête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'action publique ne va pas dans ce sens. Il y a de multiples contraintes, horaires de fermeture des lieux de vie, législation sur le bruit, sur le stationnement. Tout va dans le sens, en fait, de la création de cités suburbaines, ce qui existe aussi aux États-Unis, où il n'y a pas de ville la nuit, quoi. Voilà.
Ok, merci Alexis. Merci Monsieur Tassi, vous voulez peut-être réagir ou compléter ou comme vous.
Non, j'attends vos questions. Si vous en avez, je serais vraiment là, heureux pour être en mesure de vous répondre.
D'accord.
Je vous écoute.
Eh bien, on va se tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des.
Parce que je n'ai pas prévu un long monologue.
Ok, ok.
Ouais, je suis désolé.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou. Voilà. Peut-être élargir, alors, parce qu'on on a une idée de faire une table ronde, peut-être en 2018, sur monde de la nuit, créativité, territoire. Est-ce que ça
alors, vous. Ça, c'est un domaine sur lequel je peux vous donner plein d'idées et d'éclaircissements. C'est évidemment c'est le cœur de cible de l'activité qui est la mienne. Donc, c'est effectivement une activité concentrée sur la nuit et sur les établissements de nuit en particulier. Sachez à titre d'exemple qu'à ce jour, il y a 6000 établissements de nuit en France. Il y a 4500. Alors, 6000, c'est une globalité qui regroupe les établissements de nuit dits classiques, les discothèques d'un côté, et les établissements un peu hybrides qu'on voit apparaître où on peut arriver plutôt en soirée, boire un verre, manger, danser par si affinité. Donc, le secteur d'activité, celui-ci en France. Se transforme et il y a une réelle activité. Ce qu'on ne mesure pas, c'est que ça représente 50 000 personnes à l'échelle nationale et 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est pas rien en soi. La législation, bien sûr, s'empare de ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point nos politiques au sens large s'y intéressent. J'étais il y a quelques jours à Paris à l'occasion d'un colloque justement sur cette thématique-là. Le secrétaire d'État en charge du tourisme était présent et nous a vraiment fait passer comme message que c'était un sujet sur lequel il était en train d'approfondir sa connaissance, mais surtout il voulait libérer un peu les modes de pensée et faire en sorte qu'on comprenne bien que la nuit n'est qu'une continuité de la journée, donc et surtout pas faire la séparation des deux, qui serait une erreur presque fatale. C'était un peu le chemin sur lequel on allait ces dernières années et en soi, sincèrement, c'est pas bon. Ce que je peux dire, moi, à titre personnel par rapport à l'activité qui est la mienne, c'est qu'il y a vraiment de l'activité, enfin, de l'activité professionnelle. C'est-à-dire que les jeunes qui sont formés à notre cursus, qui travaillent, qui ont pour objectif premier quand ils arrivent, évidemment, eux, ils veulent faire danser la France, voire plus. Mais au-delà de ça, on leur inculque la vie de l'entreprise. Parce que comme ils sont en alternance, ils se retrouvent tous les week-ends en situation professionnelle réelle. Ils ont évidemment un tuteur qui va les accompagner, les monter en puissance dans leurs compétences, chose qu'on va faire de notre côté. Mais en tout cas, cette réalité-là, la musique était en train également d'évoluer. Une chose est certaine, on parle, et c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, de musique électronique. Donc, en tout cas, il se trouve, et pour voyager un peu, je puis vous assurer que cette musique dite électronique est présente sur l'ensemble de la planète. Et la jeunesse, vraiment, celle qu'on va dire, les 13-20 ans, sont quand même attirées naturellement par ces musiques-là, qui sont en train, elles aussi, de se métamorphoser. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'attrait et de la jeunesse, c'est une chose, mais de l'autre côté, les outils électroniques, les instruments électroniques sont eux aussi au service de cette jeunesse, et donc par effet ricochet, des employeurs qui les emploient, qui les amènent à faire valoir leur talent, s'ils en ont, et on fait en sorte qu'ils le déploient ou qu'en tout cas qu'ils le fassent apparaître.
Je crois même qu'il existe un observatoire du monde de la nuit.
Exactement, effectivement, c'est interministériel. C'est parce que, évidemment, il y a des notions de santé publique qui interviennent dans cette réflexion-là. En particulier, le premier qui me vient en tête, parce que c'est vraiment un axe sur lequel on travaille beaucoup, c'est la protection auditive. Mais la pleine compréhension aussi que doivent avoir ceux qui sont aux commandes du son, c'est-à-dire ceux qui sont en mesure de le diffuser, une compréhension des risques engendrés par la diffusion de ce son-là pour le public situé en face. Donc là, la chance que l'on a, nous, c'est d'avoir des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans d'âge moyen, et on est en capacité de leur faire passer ce message. Et par exemple, l'exemple le plus concret que je peux vous citer, et on est très heureux parce qu'il se trouve, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vous parlais d'apprentissage, il se trouve que l'école fait partie de la maison d'information très connue sur Poitiers, et donc c'est le CFA de l'école, et donc le conseil régional vient de doter nos jeunes d'équipements, justement donc de casques pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Il ne veut pas dire qu'il n'en avait pas, mais surtout l'extension, ça va être qu'ils vont être équipés de bouchons de faits sur mesure qui vont leur permettre de vraiment se protéger, de prendre conscience, un, qu'on peut travailler en se protégeant et que le faisant, naturellement, on sent leur état de conscience s'éveiller à ces aspects qui sont fondamentaux. Parce que s'il y a un problème qui revenait un peu récurrent sur l'ouverture de la nuit et de la musique la nuit, etc., c'est qu'effectivement, les problèmes dits de voisinage qui font qu'il est de bon ton d'essayer de comprendre comment on pourrait faire pour réduire les nuisances s'il y en a, et surtout quels sont les outils déjà mis à disposition de cette situation-là. Quoi.
Merci pour cette précision. Je me tourne quand même encore de nouveau vers la salle. Ah ben, tu as le droit. Tu te présentes quand même pour l'enregistrement.
Bonjour, donc Isabelle Lamotte, je suis enseignante à l'Université de Poitiers, vice-présidente en charge de la culture et de la vie de campus. En fait, je n'ai pas une question à poser, j'ai juste une information à donner, parce que autour de cette question de la nuit, c'est effectivement nous, ça. À l'université, les étudiants, c'est une question importante. Et en fait, dans le cadre d'une manifestation qu'on organise avec le TAP, manifestation qui s'appelle les Rencontres Michel Foucault, c'est début novembre, du 7 au 12 novembre, on va parler des émotions et notamment des émotions collectives. Et il y aura donc une table ronde le vendredi 10 novembre à 14h sur la question des émotions pendant la nuit. La nuit qui peut générer des émotions, soit violentes, mais aussi de rapprochement, de rencontre de l'autre, etc. Donc, un petit peu ce qui a été dit là, voilà, c'était juste une information de ça.
Merci pour l'information, Isabelle. Une question peut-être pour vous obliger aussi à rebondir. Alexis a fait allusion au fait de retourner vers les humanités classiques pour aller vite.
Oui.
Donc, est-ce que tu as des expériences? Est-ce que, par exemple, par rapport à la musique électronique, est-ce qu'il y a des tentatives, par exemple, de retour ou d'utilisation, je ne sais pas comment on peut dire, parce que j'ai vu qu'il y avait je crois que c'est à Marseille, je crois qu'il y a un rappeur qui fait du rap à partir du latin et du grec, donc est-ce qu'il y a des choses
possibles, hein, justement, possible. C'est ça l'intérêt de la chose, c'est le grand mix au sens le plus large, c'est-à-dire que les limites sont celles qu'on se donne, donc moi ce qui me plaît c'est le haut potentiel de créativité qu'ont ces jeunes passionnés, et donc effectivement historiquement parce que c'est un métier quand même qui est à 98% encore aujourd'hui, c'est bien. Le plus grand nombre des pratiquants sont des autodidactes. Donc, j'en faisais partie à l'époque, et donc on avait plutôt tendance à cette époque-là à garder un peu de manière un peu personnelle tout un ensemble de voilà. L'intérêt de l'école, c'est justement ce brassage, cette capacité qui vont et cette émulation qui en est. Chacun arrive avec son histoire musicale, chacun arrive avec sa vision, et au bout de 18 mois, parce que c'est des classes de 25 quand même, qui arrivent de plein d'endroits différents, qui ont une vision évidemment différente, il en sort des choses étonnantes. Et l'exemple que vous donnez, ben oui, évidemment. On parle quelquefois de musique électronique, mais aussi dans le courant hip-hop, de scratch, enfin c'est des mots un peu... voilà. Néanmoins, ce sont des prouesses techniques qui, lorsqu'elles sont jouées séparément, enfin ou en tout cas monolithiquement, peuvent être un peu obscures, quoi, mais lorsqu'on mélange les deux genres, Donc la musique électronique, il y a des effets de son. On y crée des choses intéressantes. Si par-dessus, on y rajoute évidemment des ouvertures au monde musical et le brassage de tout ce qui peut exister musicalement sur la planète, permet d'ouvrir des champs infinis. Donc oui, on est tout à fait dans cette ligne-là.
Okay. Et juste avant que tu répondes, peut-être aussi que tu puisses évoquer un projet, oui. Puisqu'on cherche des lieux différents, oui. Le projet avec une entreprise.
Oui, tout à fait. Alors là, il faut que je me résume. Faut que je réponde à cette première question sur les humanités classiques.
Je ne veux pas te censurer sur la réponse, mais je voudrais que tu interviennes aussi sur le projet.
Si je vous ai raconté la vie de ma famille, c'est pour des raisons très précises. C'est qu'on est aussi là sur la créativité sur les territoires et que j'ai accès à ces données, en fait. Donc, du coup, c'est assez romanesque. Mais la seule chose qui se transmet, en fait, c'est pas le capital. C'est-à-dire, on peut avoir tout le patrimoine, on peut avoir tout ce qu'on veut, je veux dire, même le terroir qu'on veut, on n'est jamais sûr de ce que ça va devenir. La seule chose qu'on transmet, c'est la culture. Donc, en fait, moi, ce qui m'a été transmis par mon arrière-grand-père, par toute cette famille, par cette parentèle, ça a été, mais c'était la France aussi, c'était vraiment l'amour de la complexité de la culture. Moi, il y a des choses qui m'effraient à titre personnel et qui font... C'est intéressant qu'on soit vraiment l'un à côté de l'autre parce que je suis quelqu'un qui est vraiment dans le monde de l'acoustique. Okay, et que je n'aime pas... Mon rêve, c'est que le mainstream soit une histoire d'individu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de courant. J'aime pas les collages et je pense que pour avoir fait du free jazz, mais abominable, enfin, je veux dire, suivant les codes habituels, c'est-à-dire des musiques vraiment échevelées, un peu agressives, devant des gamins de 2 ans, je me suis rendu compte qu'ils adoraient ça. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas prendre les gamins pour des cons. Au contraire, il faut vraiment voir l'individu qu'il y a derrière et qu'il faut que les gens soient cultivés. Et il faut prendre la complexité. Si on fait de la soupe tout le temps, si on réunit comme ça toujours les choses ensemble de façon artificielle, on ne produira pas de sens. Alors, bon, j'ai un enfant qui a 15 ans, je me rends compte de comment ça fonctionne. C'est pas pareil. Il a un problème avec sa prof de maths, il ne comprend pas, il trouve un tutoriel et ensuite il a une super note. Ils ont un accès au savoir qui est différent. Comme disait monsieur assis à côté de moi, maintenant, avec les moyens techniques, on peut produire quelque chose qui ressemble à de la musique. Totalement formel, en place et tout, ce qui était il y a 50 ans complètement impossible. Il fallait une technicité. Après, je pense que pour être un grand DJ et tout, il faut aussi une grande technicité, une grande connaissance de toutes ces choses-là, quoi. Quand je parlais du monde de la nuit, je ne parle pas du bruit. Je parle de café philo la nuit. Je parle de tout ça. Ensuite, je vais rebondir sur l'histoire de l'entreprise. Je vais intervenir, par exemple, dans l'entreprise de Jean-Marc Neveu. Parce qu'il y a un cloisonnement des publics fabuleux en France. Voilà. Le TAP, plein de gens ne se sentent pas la légitimité d'aller là-bas. Ce n'est pas un problème de curiosité, c'est un problème de légitimité, réellement. Et le rapport que le centre-ville entretient avec l'université et avec tout ce qui l'entoure est excluant pour beaucoup de monde. C'est pour ça que moi, je jouais dans une entreprise, parce que l'argent est relativement secondaire. Je représente une assoce qui s'appelle la Feelings Factory. Et l'être humain, c'est notre dogme, n'est jamais autant humain que lorsqu'il est ému. Je suis là pour procurer des émotions aux gens et échanger avec les gens. Donc je vais jouer par exemple une interprétation des suites de Bach dans une usine à 8h du matin chez Jean-Marc, pour le plaisir de la rencontre. Voilà.
D'ailleurs, je vous invite, vendredi prochain, il y aura un quatuor de musique classique chez Jean-Marc Neveu de 12h30 à 13h30. Voilà. Donc c'est un peu aussi l'expérimentation que l'on mène avec lui. Je vous invite, de temps en temps, on fait une visite une fois par mois dans l'entreprise où on fait venir les gens les plus inattendus. C'est précisément ce qui nous intéresse, y compris dans ces journées. Donc si vous avez des expériences inattendues à nous proposer pour les 7e journée, nous sommes preneurs. Voilà. Merci à vous deux. Et donc j'appelle à la table Michel Briand, Ambra Senatore, Agnès Pelletier pour intervenir autour du geste dansé. Après la musique, la danse. Et ça, grâce à Isabelle, merci. C'est comme ça qu'on avait... c'est quand même... Donc Agnès Pelletier, Ambroise Sénatoré. Ah, ok. Très bien. Installez-vous. Ok. Asseyez-vous. Et puis, Michel, je vous laisse présenter, organiser la table.
Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout ce que j'avais compris. Mais je me félicitais tout à l'heure de la variété des formats présentés, ce qui était tout à fait intéressant tout à l'heure aussi quand j'écoutais des représentants des entreprises qui avaient des choses très fortes à dire sur leur imaginaire de l'université, par exemple, hein, de l'éducation nationale, etc. C'était assez intéressant et je pense qu'on va pouvoir leur montrer des choses. Non, je dis ça parce que, en fait, comme le collègue, enfin la personne qui parlait de jazz précédemment, moi je m'étais contenté de préparer un exposé qui devait durer un quart d'heure sur différentes questions.
De toute façon, vous avez jusqu'à midi et demi.
Ensuite,
donc.
Je pensais que les personnes avaient préparé aussi des choses.
Moi, j'ai rien préparé. Voilà. Moi bon. Non plus, mais.
D'accord.
Notre métier est fait d'improvisation. Alors, donc
tout à fait. On va faire de l'improvisation contact. exactement. Alors, je ne sais pas comment je peux faire. Est-ce que... Bon, d'abord, on peut mm-hmm. chacun se présenter, peut-être. Je vais quand même prendre le guide. On peut se présenter. J'aimerais quand même dire un certain nombre de choses, parce que ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur le jazz et puis sur le monde de la nuit. On va improviser, ouais. Mm-hmm. Ça vous convient ?
Ben oui, oui.
Bon, ça veut dire quand même un monologue de ma part de 10 minutes au départ.
Ah, mais tout va bien.
C'est très bien.
Bon,
ouais.
Et puis peut-être que ça enchaînera.
Ça servira de trace pour après
et
pouvoir...
Et du coup, vous partirez. Bon, super. Très bien. Oui. Bon, super. Donc, je suis Michel Briand, professeur de langue et littérature grecque. C'est pour ça que tout à l'heure, ça m'a un peu parlé et que je pourrais faire une transition en disant que la créativité... souvent passe par la culture, en effet, mais la culture à long terme. La danse moderne, avec Isadora Duncan, etc., et Nijinsky, elle est souvent passée par la redécouverte de choses extrêmement, extrêmement anciennes. Le monde de la nuit recrée des lieux, des espaces que je vais désigner comme des hétérotopies tout à l'heure, à la manière de Foucault, en recréant du dionysiaque. Ancien. Nietzsche, avec Wagner, a recomposé l'opéra romantique en faisant un petit détour par la tragédie grecque. Voilà, bon, c'est ce genre de choses. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant tout à l'heure, cette association. Pour la suite de ma présentation, je m'occupe aussi beaucoup de danse en termes de recherche, danse dans l'Antiquité ou référence à l'Antiquité. Dans la danse contemporaine, et nous avons surtout travaillé ici, localement, c'est là que la question du rapport entre territoire et créativité va apparaître, avec Isabelle Lamotte qui s'est exprimée tout à l'heure, avec différents centres, enfin différents partenaires ici, éducation nationale, etc., autour de la question de l'amateur en danse. Et nous venons de faire paraître au Centre national de la danse cet ouvrage intitulé « Corps incroyable, pratique amateur en danse contemporaine », qui est le résultat de ces deux sessions. Je vais le faire passer, parce qu'il y a un chapitre sur Poitiers, ville en danse. Voilà. Ce qui est une manière pour moi d'introduire un peu cette table ronde en disant que ce que vous allez voir là, ce n'est pas un intermède, ou un intervalle, même j'ai vu le mot intervalle dans le programme, chorégraphique, danser, c'est-à-dire quelque chose qui serait, comme souvent la danse, hein, ou la musique, voilà, on passe, on fait nos petits entrechats, et puis, non, c'est une réflexion d'ensemble, variée, je pense que nous avons tous les trois des points de vue assez variés, puisqu'il y a danseurs, chorégraphes, universitaires, enfin voilà, ces approches différentes, mais sur ce que la danse à dire sur les territoires, ou plus exactement ce que les pratiques de danse variées, les différents styles de danse, etc., peuvent faire dans les territoires. Comment est-ce qu'elles peuvent les transformer ? Voilà, alors je me suis présenté, j'ai présenté un peu déjà des orientations pour la table ronde, finalement. C'est bien l'improvisation, en fait, oui, ça marche. Hein. Et puis, bah, vous pouvez vous présenter
oui.
Aussi, et peut-être en présenter en même temps, bon, d'une part, votre actualité, comme je viens de faire, là, ou bien aussi, dans quelle direction vous aimeriez que la discussion parte.
Donc moi, je suis Agnès Pelletier, je suis chorégraphe de la compagnie Volubilis et je suis aussi directrice du festival Panico Dancing. La compagnie, elle est à Niort. On y est déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Effectivement, c'est un peu, on ne sait pas trop d'où ça vient, d'où ça part. Mais en tout cas, il y avait quelque chose depuis qui était présent, moi, dans ma manière de travailler. C'était comment je fais pour intéresser un public qui, a priori, n'est pas forcément sensible à la danse, comment je fais pour le faire venir, déjà il faut qu'il me voie, parce que je pars du principe que ce public-là auquel je pensais ne venait pas forcément au théâtre. Donc nous, en fait, on a un parcours vraiment dans l'espace public en matière de création. On a quand même fait une création en salle, j'aime dire qu'elle a tourné 3,5 fois, repéré certes, mais tourné 3,5 fois, et c'est là que je me suis posé la question de mais comment on vend la danse, comment ça marche, comment on vend un spectacle, et voilà. Et du coup, 2006, eh ben, c'est là que par hasard, mais il n'y a pas de hasard en même temps, parce qu'après tu fais des liens avec ton parcours, mais c'est comme ça que j'ai l'idée d'inventer un spectacle sur les marchés, où on vend de la danse au kilo sur les marchés. Et c'est donc un bonimenteur qui démarre, un comédien, et on ne parle jamais de danse, mais on parle de méthodes de développement physique et mental, et on vend une boîte de conserve. Et on se dit qu'après avoir acheté cette boîte, façon Popeye les épinards, eh bien...
mais c'était vous, parce que j'en ai acheté une boîte.
Ben oui, ben je
une
sais.
Une boîte
oui.
de ravioli. Enfin,
vous pas, ne l'avez pas ouvert. Disais... Hein,
ah non, j'ai pas ouvert.
Il valait mieux.
Non.
C'était une vraie arnaque.
Que... D'accord.
Voilà, donc ça, c'est le démarrage de mon histoire avec l'espace public. Et évidemment, toucher ce public, eh ben, alors évidemment, hein, quand on est programmé sur un marché, il ne faut pas rêver, on n'y va pas tout seul. C'est soit il y a un théâtre complice qui nous a programmé ou un festival. Mais il y a donc un public qui est donc averti, mais après, il y a tout le public qui vient faire ses courses le matin et qui tombe sur cette espèce d'ovni. Et comme l'entrée, c'est de vendre quelque chose, forcément, ça l'intéresse. Voilà. Et là, eh ben, ça a été le démarrage d'une aventure incroyable auprès du public passant et de ma danse qui, du coup, s'est inventée presque pour ce public qui ne fait que passer et qui, à un moment donné, ben, dans son quotidien, il va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc, c'est un peu mon entrée. Puis après, alors on pourra parler des créations que j'ai faites par la suite. Mais bon, ça, c'est une première histoire. Et après, parallèlement, d'accord, les spectateurs, oui, comment on essaie de les faire venir, mais et comment on fait danser aussi les gens qui n'ont jamais dansé et qui se mettent à 10 milieux de la danse, qui sacralisent tellement la danse qu'à un moment donné, c'est inaccessible. Comme d'ailleurs ce que monsieur disait pour rentrer dans une salle de spectacle. C'est pas moi, on n'est pas légitime pour pratiquer. Donc là, c'est un autre terrain voilà, qu'on a défriché. Et c'est vrai, ben, voilà, on a par plusieurs, évidemment... bon, je vous l'avouer, hein, des fois, on triche un peu. Mais je me suis dit, comment on peut intéresser les gens j'avais envie d'inventer une chorégraphie de grand groupe qui allait se danser à Niort pour une journée de danse. Ça, c'était en 2012. J'avais l'idée de faire une journée de danse dans l'espace public. Et donc, il y avait des compagnies d'invités, quelques compagnies. Et puis, voilà, comment je vais faire pour... Donc, je me dis, bah tiens, à l'époque, 2012, on entendait beaucoup parler des flash mobs. Il y avait déjà un petit moment, hein, des frises, des flash mobs. Donc, je vais appeler ça flash mob. Flash mob un peu bricolé par la compagnie Volubilis. Eh bien, le mot flash mob fait qu'on a eu 90 inscrits. C'est des petites affichettes, on était même un peu de réseaux sociaux, mais à peine, à l'époque, on n'était pas encore trop branchés sur les réseaux sociaux. Et il y a une petite centaine de personnes qui est venue comme ça s'inscrire pour apprendre une chorégraphie donc, sur 2 jours et qui s'est dansée tel jour. Et là, on a commencé à se dire, mais c'est incroyable comment le... Et là, quand on discute avec les gens qui arrivent, eh ben, il y en avait, sur la centaine, il y en avait 60 qui n'avaient jamais dansé. Mais jamais dansé, c'est flash mob. Ils avaient vu un peu à la télé, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc ils étaient un peu embêtés parce qu'il fallait l'apprendre en 2 jours. Ils pensaient que ça allait... Donc il faut à chaque fois reformuler. Ben non, c'est 2 jours, d'accord. Et c'est comme ça qu'on a démarré à Niort, à du coup créer l'envie l'envie de danser, c'est vraiment le démarrage. Puis après, ça fait des petits, et là, je pourrais vous raconter les suites de ce phénomène, mais que je sous-estimais à l'époque. Enfin, flash mob bricolé, je me suis amusée de moi-même et du mot flash mob et de moi ce que je fais, parce que je m'amuse beaucoup de ce que je fais, je ne me prends pas vraiment au sérieux. Et en même temps, quand j'en parle, je suis tellement convaincue que ça devient sérieux. Voilà. Je pourrais aller plus loin, mais... voilà.
Ah non, mais en tout cas, nous sommes, je pense, tous impressionnés. Nous vous prenons très, très au sérieux, en fait. C'est sûr.
Voilà.
Bon. Surtout quand on voit le résultat, parce que oui. J'ai participé, j'étais présente avec un spectacle, justement, à l'édition de Panico Dancing.
Oui, donc ça, c'est le festival qu'on a créé, Festival Panico Dancing. Donc, c'était la deuxième édition en 2017, suite à la journée de danse en 2012, voilà, 2015. Vraiment une biennale de danse dans l'espace public. Et on avait invité, voilà, et pour notre plus grand plaisir...
Et c'était pour nous un plaisir, c'était donc du coup à Niort, et on sentait que cette ville, au moins les personnes qui étaient présentes, il y en avait de très nombreuses, spectateurs, amateurs, qui ont aussi participé à des événements que tu as suggéré hyper bien, là j'admire, parce que sur le grand nombre comme ça, c'est pas évident, et ben on sentait que leurs yeux de spectateurs et leur corps d'amateurs dansaient, quoi, ils étaient dans ça, donc je pense qu'après 2012, ça a vraiment...
Ben voilà.
Et on le touchait, on le sentait avec nos corps. Bon, bref, donc moi c'est Ambra Senatore, je suis aussi chorégraphe et donc italienne. Je suis arrivée, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais juste pour dire que quand je suis arrivée en France pour une voie ou l'autre, un peu le hasard aussi, hein, c'est souvent ça qui guide les choses, c'est le choix, le hasard et comment on le met ensemble. Et ben, j'ai pu apprécier et j'étais vraiment touchée pour tout ce qui s'appelle de manière différente médiation, action culturelle et d'autres choses aussi. Vous arrivez à me comprendre? Ok, des fois, hein, c'est. Et ça va. Et qui donnait du sens au fait de faire des spectacles, ce qui était ce que je faisais. Je commençais à faire en plus en Italie parce que c'était aussi le début. C'était en 2007 qu'on est arrivé avec. Des premiers pas en France. Moi, j'étais chorégraphe depuis 2004 avec des petits solos, donc au début. Je sens que c'est toujours le début. C'est toujours. Et ça m'a vraiment touché le cœur de voir comment le spectacle vivant faisait sens parce que c'était vraiment du partage, ou au moins qu'on essayait que ça le soit, dans tous les rôles. Ceux qui travaillent dans les théâtres, dans les collectivités, c'est quelque chose que malheureusement je ne connaissais pas en Italie. En Italie, souvent, il y a l'effort d'une personne, deux, mais ça ne s'applique pas sur un système. Et c'est dommage, parce que le spectacle vivant risque de devenir un truc pour les gens qui en font, qui sont de moins en moins, plus, et on fait des spectacles pour les copains, et ça n'a pas de sens, parce que c'est de l'argent public. Donc c'est très triste que ce soit comme ça. Et je trouve en France une autre démarche que j'apprécie, donc quand j'arrive, après, en fonction des lieux, elle est moins gérée, mieux gérée ou pas, mais c'est sûr que en arrivant dans ce contexte, ça me touche énormément et que j'ai envie de participer beaucoup à cette activité de rencontre des gens à travers la danse, de la même manière que j'ai envie de créer des pièces et de rencontrer le spectateur pendant la séance de spectacle. Donc les deux choses vont vraiment ensemble, elles se complètent, elles existent ensemble. Et quand à un moment, quelqu'un m'a dit « mais tu pourrais postuler pour un centre chorégraphique », je ne savais pas trop ce que c'était, et c'est pour ça, je pense, que j'ai postulé. Donc je dirige un centre chorégraphique, et je le fais, je pense, parce que je ne connaissais pas bien l'histoire. Non, mais ce n'est pas du tout pour manquer de respect à cette histoire, au contraire, c'est une histoire importante en France qui a fait qu'il y a des réalités qui travaillent autour de la culture et du spectacle vivant, donc absolument, j'en connaissais un peu, mais... sans savoir qu'un directeur était considéré important. Moi, je ne me considérais pas important, enfin, pas plus qu'être humain comme les autres. Donc, ça, c'est ça que je dis. Quand je suis ça trop tard que c'était un rôle important. Moi, pour moi, c'était avoir des responsabilités comme d'autres personnes à leur endroit. Et donc, je postulais. Et une envie, donc je disais, une envie qui était à la base de cette candidature, c'était pour avoir goûté le travail avec les habitants, avec les enfants, enfin, après, on pourra en discuter avec, mais qui vont ailleurs que la salle de spectacle au monde du spectacle, et qui, je répète, font sens. C'est pour ça que ça fait sens de faire ce métier, et chacun le sien, mais de travailler autour de voilà, la danse, le spectacle vivant, à mon avis, hein, ça fait sens pour ça. Et donc, j'avais rencontré des réalités avec lesquelles, au sein de ma compagnie, on a pu construire des choses, mais justement, on observe l'importance de la continuité et de la durée dans le rapport aux gens. Et du coup, la direction d'un centre chorégraphique permettait de mettre des racines et de pouvoir espérer que le sens se fasse de plus en plus grâce à une continuité, une durée et un rapport vrai de plus en plus avec les personnes, parce que ce n'était pas juste éphémère et rapide. Je ne sais pas si ça se suit comme parcours. Donc voilà, les choix de ma vie de chorégraphe sont très liés à ce rapport aux personnes à travers la danse. Et je dis toujours que la danse, ce n'est pas mieux que d'autres choses. Moi, c'est juste celle qui m'est proche, c'est tout. Donc c'est celle que j'utilise, mais que c'est le partage qui est c'est le partage, c'est la relation qui est la base, je crois, aussi du fait d'être des êtres humains, et que j'essaye de porter avec mon équipe et les équipes que je rencontre à travers la danse, parce que ça m'est arrivé comme ça aurait pu être la cuisine ou autre chose, hein. Et voilà, vraiment je sens ça. Donc là je finis l'intro et puis
Ben, merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre un peu de la manière désordonnée, mais c'est bien le désordre, parce que les structures ordonnées sans mouvement, ça ne fonctionne pas, ça ne danse pas. Mm-hmm. On peut essayer de faire danser notre table ronde. Je vais reprendre ce que je vous avais proposé tout à l'heure, puisque, en effet, moi aussi, j'ai préparé, alors pas un texte, mais des notes, etc., parce que j'avais compris que ça se passait comme ça. Mais je vais raccourcir. Et puis, en fait, c'est une manière pour moi de proposer des points de réflexion sur lesquels, sur la relation entre danse et territoire, créativité en danse et territoire, et puis après vous en faites ce que vous voulez, puis vous aussi, puis on verra. Puis de toute façon, je suis un universitaire, donc c'est ce que je sais faire, enfin aussi. Je ne peux pas improviser de la manière brillante.
D'ailleurs, on vient d'assister. En parlant de territoire, ouais. J'ai une amie universitaire à Nantes qui s'intéresse de près au discours de Marine Le Pen, pour ne pas la nommer, et c'est un des mots qu'elle utilise le plus, ces territoires.
Avec le mot identité dont je vais parler tout à l'heure. C'est les deux termes. Et en fait, je dirais d'abord que la danse, la danse, en fait, c'est l'un des rares arts qui est à la fois un art du temps et un art de l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que ça marchait pas bien dans les catégories des beaux-arts jusqu'à la fin du 19e siècle, et que la danse n'était pas très bien considérée. C'est forcément l'accessoire de la musique, ou bien l'accessoire de la poésie, enfin de la littérature, ou des choses comme ça. C'est décoratif, c'est illustratif. Et on n'en est plus là. On n'en est plus là parce que les territoires, du point de vue de la danse, c'est justement pas des espaces fermés, c'est plutôt des zones de circulation et d'interaction. Et notamment le jeu avec les frontières, c'est important. Quand je dis ça, je vais expliquer après, mais c'est que la danse aussi, ça fait partie de la vie du point de vue du temps. Et une manifestation, par exemple, politique, dans les rues de Poitiers, par exemple, en fait, ça se chorégraphie, ou c'est chorégraphié. Parfois bien, parfois pas bien. Ça relève de la danse aussi pour moi. Je vais expliquer un tout petit peu mieux ensuite. J'ai procédé en trois temps. Tiens, je ne l'ai même pas fait exprès, mais bon. Quand on est déformé, on est déformé. Hein. En parlant, à partir de l'ouvrage, des figures d'amateurs, qu'est-ce que c'est que des amateurs en danse, différentes catégories comme ça, j'en ai relevé quatre. Dans un deuxième temps, parler d'espace, et notamment d'espace autre, d'hétérotopie. Et puis après, le contemporain, là-dedans. Qu'est-ce que ça vient faire ? Voilà. Quand on a réfléchi aux différents types d'amateurs possibles pour la publication d'ouvrages, et puis surtout pour les tables rondes et tout ça qu'il y avait dans les sessions de Corps Incroyable, à l'université et puis à Canopée, ici, on s'est aperçu que se posait très très vite la question d'altérité, en fait, plutôt que d'identité, ou bien la question d'identité, mais une identité nécessairement plurielle et mouvante. Quelqu'un qui se met en danse, il découvre des choses de lui ou d'elle qu'il ne connaissait pas. Et parce que, en fait, dans les études de genre, par exemple, vous connaissez Judith Butler, une des grandes inventrices de la théorie critique appliquée aux questions de genre, donc la théorie queer, etc. Elle considère que l'identité, par exemple l'identité de genre, c'est, ça ne relève pas de l'expression, ça relève de la performance. C'est-à-dire qu'on performe les identités de genre. Alors c'est pareil pour toutes les autres identités, d'âge, de classe sociale, etc. Et elle prend l'exemple de la danse, enfin plus exactement de la performance drag. Hein. Je pense que c'est encore plus net pour nous. J'en arrive à quatre types d'amateurs. En fait, il y a les amateurs spectateurs, déjà. C'est-à-dire des gens qui passent dans la rue comme ça, et puis il y a une performance de danse, par exemple sur la place d'Armes à Poitiers, à l'ouverture du festival Accor. Des gens ne savaient pas qu'il y avait ça, et puis ils regardent, et ils voient un mode d'organisation de l'espace, une prise de l'espace par des personnes qui sont comme elles d'ailleurs, hein, qui sont des amateurs, ça se voit possiblement. Et ils s'arrêtent et ça les amène à réfléchir à ce que c'est que, oui, à ce que c'est que la danse, mais à ce que c'est que l'espace aussi, des choses comme ça. Et du coup, ils n'auront pas eu besoin de passer la frontière du TAP, par exemple, parce qu'il y aura eu des interventions à l'extérieur. Ça, c'est important pour les politiques et pour l'accès à la culture. D'aller à la rencontre de personnes qui ne s'identifient pas comme spectateurs ou même comme danseurs amateurs. Il y a aussi une autre catégorie, à mon avis plus importante, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, et ça c'était très bien, le carnaval, les fêtes. En fait, quand je demande à des étudiants au début de mes cours sur l'esthétique de la danse contemporaine, je leur demande, est-ce que vous avez fait de la danse ? Alors là, il y en a plein qui ne répondent pas. Qui répondent, bah non, j'ai jamais fait de la danse. Alors, bien, vous n'avez jamais été dans une boîte de nuit, vous n'avez jamais été dans une rave party, vous n'avez jamais été dans un mariage, etc. Mais c'est pas pareil. Ah ben, écoutez, on va voir que, si, justement, parce que si la danse c'est un art de l'espace et aussi un art du temps, c'est parce que la danse a un rapport avec la vie. Enfin, je fais référence là à l'expo au centre de Pompidou en 2011, Danser sa vie. Voilà. Alors là, c'est les communautés. On parlait tout à l'heure beaucoup du fait que la culture contemporaine avançait régulièrement en se revivifiant, soit en découvrant des cultures éloignées dans l'espace. Tout ce que, bon, par exemple, le jazz, hein, la manière dont vous avez décrit le développement du jazz, mais dans la vie des musiciens de jazz, et ensuite évidemment dans la musique, avant que ça devienne mainstream, et en fait une série de stéréotypes, et puis un objet commercial. Et pareil dans le temps également. Je pense à l'importance des danses traditionnelles, les danses de salon qui ont une histoire très très importante, les danses actuelles qui ont aussi une histoire, crump, voguing, etc. Et tout ça, en fait, même si les responsables politiques ne le savent pas nécessairement, quoique beaucoup le savent tout de même, et Jack Lang le savait, lui, clairement, ça innerve les territoires, parce que ça les fait vivre. C'est toute une quantité d'activités, de moments, la nuit, le jour, etc., qui produisent de l'empowerment, c'est-à-dire que les gens se prennent en charge leur corps, ils dansent, ils prennent en possession des espaces. Et une autre catégorie, mais là vous allez beaucoup en parler parce que c'est vraiment le plus la partie principale de votre travail. Alors ce sont des amateurs qui parfois deviennent de faux amateurs, en fait, hein, c'est-à-dire que ils suivent un stage avec l'une ou l'autre, puis ensuite ils découvrent qu'ils savent danser, donc ils vont en faire d'autres, ils vont être chorégraphiés.
Professionnels.
Les amateurs professionnels, voilà. C'est le terme qu'emploie dans le premier article du bouquin Isabelle Gineau.
Apprenant embêté par la CGT, je ne sais pas s'ils sont là.
Elle parle d'amateurs professionnels, tout à fait. Poitiers est remarquable de ce point de vue-là. En 2016, l'année dernière, le Centre national de la danse a fait venir l'ensemble de ce qu'ils appellent le dispositif amateur et danse en amateur et répertoire. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une trentaine de projets avec des équipes d'amateurs en France qui revivifient, réactualisent, etc., des pièces du répertoire contemporain. Ça veut dire que il y a donc des amateurs grâce auxquels la danse vit. Ça, c'est un problème aussi de l'archivage de la danse et du fait qu'elle se poursuive. Il y avait aussi au programme du TAP en 2015 la belle pièce qui s'appelait Atlas Poitiers, où on avait, après un vaste appel d'offres, invité une centaine d'amateurs à se présenter sur la scène de Poitiers et à dresser une cartographie du territoire poitevin. Du coup, il y avait beaucoup d'employés du tertiaire, hein, mais il y avait aussi des ruraux, il y avait aussi... Voilà. Et puis la dernière catégorie, que j'ai appelée l'animal fragile et les rebelles. Alors animal fragile, ça va me permettre de passer au deuxième point, aux hétérotopies. La danse, c'est un art de la fragilité, hein, du déséquilibre aussi. Et tous ces chorégraphes et ces danseurs qui vont travailler avec des personnes très âgées, y compris avec des personnes en fin de vie, avec des prisonniers, avec des personnes en situation de handicap, enfin j'en oublie, hein, il y en a plein d'autres. Anna Alprin, par exemple, quand elle-même atteinte d'un cancer dans les années 70, a complètement transformé, elle travaillait dans la danse postmoderne, peut-être une danse très abstraite finalement, et elle s'est mise à travailler avec des gens atteints du sida, par exemple, pour que chacun découvre sa propre danse et découvre ce que la danse peut faire au corps. Peut même pas soigner, évidemment, hein, y a la médecine quand même pour ça, mais aider à mieux vivre, en tout cas. Et puis, ce que j'ai appelé les rebelles, j'en ai parlé tout à l'heure, l'un de mes derniers articles en cours de préparation, c'est sur les fémènes. J'ai absolument adoré la capacité des fémènes à chorégraphier, à mettre en espace leur intervention, que moi je considère comme chorégraphique, au 1er mai 2015, contre le Front National. Là, on a vraiment un art de l'espace et du temps qui, politiquement, a agi sur un territoire, c'est-à-dire que maintenant, le Front National ne peut plus prendre possession de ce territoire quand même fondamental, le centre de Paris, la place de l'Opéra, etc., dont ils prenaient traditionnellement possession, hein, en prenant possession aussi du 1er mai, la fête des travailleurs, etc. Ben maintenant, ils ne le font plus parce que la parodie violente des fémènes, leur chorégraphie, avec la scène supérieure, hein, le public des frontistes en bas, qui ne pouvaient rien faire, quoi. Enfin, vraiment, une excellente intervention. Et là, c'est un bon exemple de ce que la danse peut faire aussi au territoire. Voilà, deuxième partie, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé, en fait. C'est les lieux, les hétérotopies. Michel Foucault disait, dans son texte intitulé « Des espaces autres », hein, « Il n'y a probablement pas une seule culture au monde qui ne constitue des hétérotopies ». Alors, comme hétérotopie, il donnait l'exemple du théâtre, déjà, mais il donnait l'exemple de la prison, de toutes les institutions disciplinaires, mais aussi des espaces ouverts, quand la place d'armes, au début du Festival Accord, devient une hétérotopie, parce que s'y fait des choses qui ne peuvent pas apparaître, ne peuvent pas éclore dans les lieux, comment dire. En fait, une hétérotopie, ça serait un lieu marqué par le mouvement, par la transformation, par l'altérité, et qui va transformer des choses. Alors, c'est les rêves parties, c'est les clubs, enfin, tous les exemples que j'avais donnés tout à l'heure. Donc, je ne vais pas en parler. Il reste la notion synthétique de contemporain, et de danse contemporaine, d'ailleurs, que vous définiriez peut-être comme des chorégraphes de danse contemporaine. Mais ça pose un problème, parce que je pense que les bons chorégraphes, enfin, les chorégraphes intelligents et sensibles, qui travaillent avec des amateurs, très vite, ils travaillent avec aussi ce que les amateurs considèrent comme de la danse. Et du coup, en fait, la danse contemporaine, elle devient la conjonction de toutes les temporalités possibles. C'est ce que ça signifie au départ, contemporain, ça signifie synchrone. Et donc, du coup, c'est peut-être le lieu possible, justement, du rassemblement de ce que je disais tout à l'heure, le carnaval, les danses de salon, le crump, tout ça, plus l'histoire de la danse contemporaine. Je finirai en rappelant ce que dit Paul Valéry de la danse et aussi de la danse de son temps dans ses propos sur la poésie. Vous savez, il fait une proportion entre poésie et prose, et danse et marche. Le rapport entre la danse et le territoire, si on arrive à donner les moyens à des gens de danser, même de se chorégraphier eux-mêmes, c'est encore mieux. C'est parce que ça leur permet aussi de leur donner des moyens de ne pas être simplement des piétons. En plus, anonymes, semblables les uns aux autres. Voilà, c'est ce que je retire de l'idée de Paul Valéry hein, quand il dit « la danse, c'est tout autre chose, elle est sans doute un système d'actes, mais qui ont leur fin en eux-mêmes, elle ne va nulle part, que si elle poursuit quelque chose, ce n'est qu'un objet idéal, un état, une volupté, un fantôme de fleurs ou quelque ravissement de soi-même, un extrême de vie, une cime, un point suprême de l'être. » Voilà, ça c'est Paul Valéry. Et alors évidemment, pour les territoires, les responsables politiques et tout ça, c'est compliqué. Parce que comment subventionner, aider quelque chose qui est de l'ordre de un état, une volupté, un fantôme de fleurs, quelques ravissements, c'est-à-dire quelque chose qui paraît complètement inutile dans le monde des entreprises aussi, par exemple, hein, ça paraîtra inutile. Alors qu'en fait, pour les gens concernés, ça deviendra quelque chose de complètement indispensable, encore plus important que tout le reste. C'est-à-dire que on oublie de soutenir ce qui est le plus important dans nos vies. Souvent. Bon, voilà. J'avais dit 10 minutes, mais je crois que j'ai dépassé encore.
C'est bien.
À vous. Je ne sais pas si ça vous donne des idées ou bien si vous aviez d'autres choses à dire sur d'autres choses. Soyons libres.
Oui,
parce que
moi aussi, ouais, après
c'est
large.
Hein, oui, c'était très.
Oui, non, mais c'est du coup, non, effectivement, ça pourrait être une conversation, mais à nous tous, hein, parce qu'on a tous des expériences de vie, de citoyens et d'habitants d'un lieu où on partage des espaces. Où, moi, je dis quand même que le moment où l'amateur rentre dans la danse, moi, dans l'espace public en tout cas, eh bien, son corps qui est social, qui est politique. Aussi, qui peut être politique, enfin dans une manif, hein, ça peut être un corps politique, il devient sensible. Et je pense que le moment où l'amateur vient s'inscrire à cette, enfin vient rentre dans cette proposition, c'est avant tout être ensemble. Pour un moment, a priori peut-être sensible, mais ça, il peut pas, tant qu'il n'a pas dansé, il ne le sait pas. Et. Moi, quand j'ai en 2011, je me rappelle très bien, en venant en voiture ce matin, ce qui m'avait effaré, et c'est là que je me suis dit, tiens, il faut prendre le maquis, il faut y aller, il faut arrêter de rester assis sur nos sièges et dans nos studios de danse. C'est le fait de la musique. Il y avait, je vois un grand groupe de danseurs, alors je m'approche, j'étais, oh, j'ai incroyable. Et en fait, il y avait 300 danseurs au moins, danse country, danseurs de danse country. Dans l'espace public, ils prenaient une place de Niort, une place magnifique. Enfin, ça, après, moi, ce que je disais à Isabelle, j'en ai parlé vite fait ce matin, j'ai beaucoup de respect pour les danseurs hein, de danse country. Après, pour la danse country, j'en ai moins. En tout cas, comment elle est... Après, moi, c'est pas mes origines, la danse country. Donc, moi, je peux parler... Oui, de la danse en ligne, le Madison. Oui. Mais en même temps, 300 danseurs qui viennent danser ensemble pour la fête de la musique. Mais quel bonheur de les voir danser ensemble. Non, horrible. Ils sont comme ça, ils ne bougent pas, ils sont figés. Ils sont dans le plaisir d'être ensemble. Alors je me suis posé, mais alors pourquoi ils sont... C'est être ensemble. Après, entre eux, il ne se passe rien.
des pauvres. Ils sont là, ils font leur truc, tac, tac, les mains là, tac, et puis hop, d'un coup, ça se regarde, et puis ça part. Après, on se trompe. Oh, alors la catastrophe, peut-être, enfin, bon, c'est... Mais oui, mais... Et en même temps, y a quelqu'un qui est moteur pour les embarquer. Et cette personne-là, c'est génial en même temps. Parce qu'elle arrive, enfin, elle arrive à fédérer. Alors, évidemment, notre œil dans ce country, c'est con. Enfin, mais non, en même temps, moi, je me suis dit, ces gens dans ce... Alors, je suis allée les voir. Je suis allée voir parce que je sais qu'ils s'entraînaient tous les vendredis à Effres. Donc, je suis allée voir. Je me suis évidemment pas présentée. Je venais simplement pour voir, pour avoir des renseignements. Et alors, après, ce qui est quand même intéressant, c'est ce qui m'a fait aussi changer de. C'est avant et après. Avant, ils sont eux, quoi. Ils rigolent, ils se racontent des choses. Puis c'est des gens, enfin, oui, enfin, c'est des gens qui ont des choses à raconter. On peut pas imaginer que la danse country, ça. On peut imaginer la personne qui pratique la danse country, pas du tout. Elle bosse à la Maïf, ce qui est l'occurrence de Niort, parce qu'il n'y a que des mutuelles. Heureusement qu'il n'y a pas Nico Dancing, on entend parler de Niort autrement. Non, tout ça pour dire qu'avant, et alors pendant, c'est à l'image de ce que j'ai vu pour cette fête de la musique, et après. Et après, ben, je parlais avec eux. On a dit, vous êtes intéressés, ben, venez nous rejoindre, venez tous les vendredis. Bon. Et puis là, on a parlé, moi, je ne pratique pas la danse country. En même temps, ça m'a... Et là, on a parlé de... Mais c'est ça, c'est... Pourquoi ils viennent? Ils pourraient venir à... Alors, je me suis dit, bon, tout ça pour dire que... Donc, ils peuvent venir pour danser autour des fondamentaux de la danse contemporaine, sans jamais leur en parler, évidemment. Et je pense que ça a été déclencheur aussi, ça. De comment, et d'où le mot flash mob bricolé, comment je peux les intéresser? Parce que dans ce country, tout le monde sait à peu près ce que c'est, ils y vont. Bon, et si je vais appeler ça chorégraphie de grand groupe danse contemporaine, je pense que là, voilà. Hein,
ouais. En fait, pardon, Alexandra, donc Grau des Soleils, je suis cinéaste, voilà. Et en fait, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est vraiment le fait de travailler avec les personnes, l'entourage, et les personnes qui sont sur le territoire. Et en fait, dans ce contemporaine, mais je dois dire que ça se rapproche aussi du cinéma d'auteur et indépendant dans lequel je travaille aussi. Et j'imagine aussi de la musique qui a sur d'autres terrains une image collée comme ça d'élitiste. Quand on parle de danse contemporaine, à l'inverse de la danse country, justement, c'est quelque chose qui a une image élitiste. Et on parlait tout à l'heure de cette difficulté, enfin vous parliez, mais d'autres ont aussi abordé ce sujet-là, de l'accès à la culture de manière générale, c'est-à-dire danse, musique ou cinéma. C'est quelque chose qui n'est pas dans le mainstream, donc pour reprendre ce terme-là. Mais de fait, je trouve intéressant votre démarche d'aller voir justement ces personnes-là, qui sont des êtres humains comme nous, mais du coup de rapprocher les... c'est vraiment quelque chose qui vraiment me parle, parce que c'est quelque chose... Voilà, on est des êtres humains, il n'y a pas de clivage à avoir dans... N'importe quelle forme d'art, ça doit transpirer, ça doit, les flux doivent s'échanger. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Du coup, ça me parle vraiment. Je trouve. Et du coup, par rapport à l'élitisme et le fait de mettre en image, enfin, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, de choisir le nom adéquat pour communiquer finalement au plus grand nombre, et que ça ne soit pas juste une séance de danse contemporaine au final qui aurait peut-être convaincu ceux qui sont concernés par ce type de danse-là, mais au contraire d'élargir et de faire venir le plus de monde possible. Et ça, vraiment, ça me touche énormément. Je trouve ça je trouve que c'est vraiment important, ça, voilà.
Je peux rajouter aussi que maintenant, en 2017, là, sur l'édition de Panico Dancing, on n'appelle plus ça flash mob bricolé. C'est maintenant le grand dancing. C'est super. Ouais, c'est le grand dancing. Donc voilà, il y a plus de.
Alors, je préciserai que c'est en fait un mouvement général dans la danse contemporaine, hein, de ne pas parler spécialement de danse contemporaine, mais d'organiser des choses sur tous les espaces, etc. Et je trouve que c'est intelligent, parce que en fait, la danse contemporaine, c'est quoi d'autre que la danse, tout simplement, la danse de notre époque.
On n'arrive pas à l'expliquer. Hein. En bras, c'est pareil. Quand on demande, alors vous faites quoi? De la danse contemporaine, mais on sait même pas quoi dire. Mais c'est quoi? On ne sait pas. C'est intéressant. Je pense que c'est la seule danse qu'on ne peut pas expliquer.
Et en même temps, avant de rencontrer les gens, ça passe par de la com qui est faite de mots.
Donc c'est vrai que voilà. Le juste poids des mots est essentiel.
Si je peux intervenir là-dessus, vite fait. Bon, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec des chorégraphes, avec des danseurs, avec Julian Hamilton, avec Bar Phillips, enfin comme performeur et aussi comme compositeur. Et aussi, malheureusement, comme danseur. Je dis malheureusement parce que j'ai fait une création avec Eric Fessenmeyer. Les danseurs cherchent toujours des corps vierges, enfin des gens qui ne sont pas danseurs, parce qu'il peut y avoir une vérité. Après, ce qui est le problème qu'il y a, c'est... Je pense, ce qui m'a vachement frappé chez les danseurs, c'est à quel point ils ont mal, et à quel point, souvent au corps. Beaucoup de danseurs ont mal au corps et cherchent une vérité... Chez l'amateur, il y a une vérité dans le mouvement. Il y a une vérité dans le mouvement chez l'amateur, quoi, qu'on va perdre une fois qu'il est sur scène, puisque comme tu disais tout à l'heure, il est sur scène, il se dit merde, je fais de la danse. Ouais. C'est tout le paradoxe de la danse et du théâtre aussi. Il faut une technique incroyable pour être aussi juste que le boulanger d'extrême droite du village, quoi. En fait, c'est ça, toute la complexité. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut faire des œuvres magnifiques en danse en travaillant avec le cinéma, justement, puisqu'on chope ces moments-là. Après, par rapport à la perception de la complexité de la danse contemporaine, il faut avouer quand même qu'en général, tous les textes de présentation que j'ai pu lire quand j'ai bossé avec Odile Azaguri et avec tous ces gens-là sont particulièrement indigestes, sont complexes. Et alors là, c'est vraiment pas mainstream du tout, quoi, sauf peut-être des gens qui disent, je vais dire que j'ai compris, comme ça, je suis super intelligent. Mais il y a eu un truc comme ça. Il y a eu vraiment un problème de présentation. Et en même temps, c'est tellement difficile, puisque finalement, c'est une nécessité, la danse, de raconter quelque chose, de vivre et d'être en mouvement, quoi. Mais il y a tellement de mots qui sont mis dessus que ça embrouille, quoi.
Oui, puis en même temps, tu parles du travail d'Odile, mais combien d'amateurs elle a embarqué, Odile ? Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Ouais. C'est très bien.
Ouais, pendant qu'on attend la question, je prends la parole, je m'en pose, mais après, voilà, pour pas dire grand-chose, juste repérer des mots qui ont été dits et sur lesquels on pourrait faire des débats d'heures. Alors, la notion de gratuité du mouvement, je ne sais pas si j'ai traduit. Donc, si je bois, je dois accomplir une fonction. Enfin, j'ai soif, il faut que je boive. Si je fais ça, je suis d'ailleurs. Donc, ça, c'est... Bon, je dis rien, juste... Je reviens à un élément dans l'histoire de la danse qui est pour moi... Enfin, nous tous, j'imagine, révélateur, c'est le moment dans les révolutions qui sont faites au fur et à mesure, un moment où, début du XXe siècle, ce qui devient danseur n'est plus l'image de beauté vue de l'extérieur, mais c'est l'être humain lui-même. Donc, tu vois, la notation Laban déplace la position, on note par rapport à l'acteur de danse, celui qui agit, et pas au regard. Ça, ça témoigne d'un changement complet. Et on est dans l'héritage de ça, dans tout ce qu'on décrit, j'ai l'impression. Parce que justement, c'est l'humain qui profite de cette chose qu'on appelle danse. Mais elle était née comme ça, la danse, au début, d'après ce qu'on a compris dans l'histoire, depuis qu'on a lu sur les dessins dans les grottes. Enfin, on sent que c'est un besoin. Et c'est gratuit, et en même temps, ça nous donne beaucoup de bouger. Donc la gratuité, elle est vraie ou fausse. Enfin, c'est une et après, la notion de être ensemble, cet aspect de collectivité qui peut passer beaucoup à travers la danse. Donc tout à l'heure, quand je disais ça peut être la danse ou autre chose, oui, c'est vrai. Après, la danse a l'avantage qu'elle est faite de corps. Nous, on existe en tant que corps. Et dans le corps, je mets tout, je mets la tête, le cœur. Mais comment on existerait s'il n'y avait pas ça ? On ne sait pas. Mais donc, on a ça. Et ça qui est mis en mouvement, ça, c'est la danse. C'est pour ça que c'est si efficace aussi. Ça va au-delà de la parole. Il peut y avoir de la parole, mais ça peut... aller au-delà, on peut être étranger, ne pas parler la langue du lieu, du territoire, mais appartenir à une collectivité qui se rencontre avec le mouvement. Et après, il y avait une autre chose que je voulais dire, c'est la notion d'expérience. Donc, ce que vous disiez, de retrouver la vérité qu'on peut avoir chez des personnes qui sont, j'utilise un mauvais mot, plus naïves par rapport à un professionnel. Et en même temps, le professionnel cherche cette vérité aussi, l'amateur aussi, mais une fois que c'est la répétition, c'est le problème de nous tous à différents niveaux, comment on retrouve la spontanéité, le vrai qu'il y a eu la première fois que je fais un geste. Et après, donc là, on parle d'amateurs qui se retrouvent éventuellement à présenter sur scène un travail. Ça, c'est un niveau. L'autre niveau, c'est l'expérience en elle-même, donc juste se retrouver tous les vendredis, discuter, être ensemble. Donc il y a des milliers de niveaux qui sont et dans le résultat et dans le processus. Bon, j'ai rien dit, j'ai dit plein de mots, je laisse la question.
Oui, Pierre Perrault.
D'habitude, je dis un peu ce que je fais comme profession, mais là, je voudrais le taire parce que moi, j'ai été danseur trad. J'ai beaucoup fait de la valse, de la polka, de la scottish. J'ai beaucoup dansé dans les années 80 à la Blaiserie ailleurs avec Batafré, avec plein de groupes qui sont connus peut-être d'un certain nombre de gens ou pas d'ailleurs. Et l'expérience que j'ai, c'est une expérience très... Alors à ce moment-là, je me suis reconnecté avec certaines origines que j'avais dans le fond des Deux-Sèvres et j'ai redécouvert mes jambes. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de compter les pas. Ça me venait tout seul. Il y a une mémoire qui m'a été transmise. Alors, ce n'est pas les mêmes parents que toi, ce n'est pas les mêmes origines. Mais là, il y avait quelque chose de très rural et de très agricole qui s'est révélé dans ces moments-là et que j'ai retrouvé à d'autres moments parce que vraiment, ça me venait tout seul. Et quand je me suis retrouvé un jour aux alentours de Bordeaux face à des gens qui faisaient du Madison, c'est mes jambes qui se sont rebellées. Parce que je les trouvais très répétitifs, je les trouvais très machines, et je me suis dit, mais pourquoi ces gens qui vont chercher la vision américaine de la polka, de la scottish, etc., version Madison, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas, et c'est valable aussi bien à New York qu'à Bordeaux, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas rechercher, alors à Bordeaux, les sauts et les rondeaux, et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à New York, il y a plein de gens qui font des balles folk, enfin, moi je suis assez bien payé pour le savoir. Et donc la question que je me suis dit en vous écoutant, c'est que oui, il y a quand même deux choses assez différentes pour moi. C'est quand on danse avec des gens qu'on va régulièrement en bal, et je pense que c'est valable pour ceux qui vont... c'est pas tout à fait les mêmes façons de danser quand on va en boîte. Mais on repère qu'en face, on a des gens plus ou moins bons danseurs, et à un moment donné, on découvre le corps dans la façon dont les gens vont l'habiter plus ou moins quand ils sont devenus bons. On voit que tous les bons danseurs ne dansent pas de la même façon. On voit qu'ils expriment leur corps avec une certaine façon qu'ils ont... de répéter de jolies façons des pas que d'autres font de façon plus malhabile. Et après, quand on passe avec de la danse plus de spectacle, on voit alors là des danseurs qui sont devenus tellement bons, tellement personnels, qui ont tellement investi leur corps qu'ils ont ouvert un autre espace. Et c'est pas la même expérience, celle qu'on peut avoir de danser très régulièrement en boîte ou en bal folk, où il y a eu à un moment donné, il y a eu la mode de la danse africaine, il y a eu, il n'y a pas très très longtemps, beaucoup de gens qui se remettent à faire de la salsa, il y a eu des mouvements comme ça de danse, on peut dire de salon, il y a aussi toute la mode tango pendant un moment, et l'expérience qu'on a à ce moment-là, c'est que c'est nous qui dansons, alors qu'en général, quand on va voir des danseurs contemporains, y compris des gens qui font du hip-hop, ils ont beaucoup bossé, ils ont beaucoup fait de battle, ils ont beaucoup discipliné, entre guillemets, leur corps, et c'est pas la même façon de vivre son corps. J'allais dire, même quand on est bon danseur en folk, que quand on... Alors, la créativité, je suis un petit peu long, mais je voulais développer ça parce qu'il me semble que ce n'est pas les mêmes niveaux de créativité du tout qu'on a dans les deux systèmes de danse. Il y en a un où on a plus une créativité ex ante, pour parler, alors là, dans mon jargon un peu pro, où on essaye de préparer, on fait sa chorégraphie à l'avance, on la construit, et puis on a quelque chose qui ensuite va devenir un spectacle. Alors qu'en réalité, quand on vient dans une danse de salon ou dans une boîte, on va plutôt être dans quelque chose qui est de l'ordre à la fois d'un effort physique, quelque chose de sensible, mais en même temps quelque chose qui vient tout seul d'une façon assez impromptue, pas tellement chorégraphiée, pas tellement pensée, mais qui se découvre au moment T, quoi, au moment donné. Et on n'est pas plus ou moins créatif dans les deux moments, mais ce n'est pas les mêmes formes de créativité qu'on a à chaque fois, il me semble. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus.
Ça me fait j'ai pas de réponse. En fait, le problème, c'est que j'ai que deux questions dans la vie en général. Donc, même sur la question de sur ce qu'on fait avec les amateurs, j'ai que des questions. Je me dis, mais pourquoi, par exemple, ça c'est pas pour répondre, je reviendrai. Pourquoi, moi, c'est si urgent de proposer aux gens de se rencontrer à travers la danse? Pourquoi il faut les convaincre de faire de la. Enfin, des fois, je me mets cette question parce que. Voilà, et en même temps, c'est parce que je fais confiance qu'il y a quelque chose de l'ordre du partage, de l'écoute qui peut arriver à travers les corps, d'être à côté d'un autre qui bouge, soit avec un code défini. Parce que si je repense à votre question, je me dis, vous parliez de danse, que ça soit la traditionnelle de plutôt liée à New York, ou même des danses américaines, enfin toutes celles que vous aimiez plus ou moins, l'africaine, il y a des codes, peut-être parce qu'on a besoin de les codifier, je ne sais pas à l'origine s'il y avait ces codes, mais... Ou alors, dans ce qu'on peut proposer Agnès et moi, peut-être on a l'impression qu'il y a moins de codes. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que je m'éloigne des codes, que je cherche voilà, que tout est possible. Enfin, la limite, c'est les possibilités du corps qui sont plus amples ou moins en fonction de combien on l'a pratiqué, le mouvement. Mais après, tout est beau. Je mélange les choses. Donc, il y aurait cet aspect de code. Et bon, pourquoi amener les gens? Ça, j'ai perdu le fil. Je ferme la parenthèse. Au niveau de votre question de la créativité, je pense que oui. Moi, je pense que déjà chaque spectacle et chaque danseur professionnel et du coup chaque personne qui se met à danser, donc définissons-le amateur, a sa créativité et que la créativité est une question de groupe aussi. Je sens fortement que quand on est ensemble, comme dans tout travail d'équipe aussi, je pense, chacun met soi-même au service d'un projet commun. Et là, la créativité, elle change à chaque projet et à chaque jour où le projet se fait. Donc, je ne saurais pas définir deux différents gros ensembles de créativité. Après, peut-être, ce qu'on a de notre côté, ceux qui ont le privilège aussi de dédier leur temps à réfléchir autour du mouvement, hein, parce que ça, c'est notre métier, donc on est aussi payé pour ça, et on prend des heures, et dans le corps et dans la tête à réfléchir sur ça, c'est aussi de se dire... les possibilités sont beaucoup. Enfin, ça, je sais pas le dire. Peut-être quelqu'un qui se dédie 2 heures par semaine à faire de la danse, ce qui est super, est rassuré par le fait de s'appuyer à quelque chose de plus écrit et que sa créativité, quand même, elle est ample là-dedans. Nous, comme on se dédie toute la vie, le spectre de possibilités, on voit bien qu'il est beaucoup plus large que les pas qu'on peut avoir appris un jour ou un autre. Mais les deux peuvent être créatifs, c'est juste peut-être voilà, sentir qu'il y a plein de possibilités et sur 2 heures par semaine, tu as moins la possibilité de les sentir peut-être. Je dis une chose peut-être bête. Je sais pas.
Peut-être d'autres questions, mais en attendant, je voulais juste m'immiscer dans le questionnement puisque vous êtes de Nantes.
Oui.
Nantes se propose d'être ville créative depuis très longtemps. Comment vous percevez ça? Enfin, est-ce que vous avez un lien avec ça? New York ne se positionne pas comme ville créative forcément, mais New York, capitale de l'économie sociale.
C'est un chemin.
C'est un chemin.
Soyez-en sûr.
Je vous laisserai répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je voudrais intervenir. Moi. Pardon. Parce que ce qui vient d'être dit, échangé là, m'évoque des choses que j'ai entendues dans la première table ronde. Sur l'entreprise, etc., et de manière positive. En tant qu'universitaire, j'ai un regard très positif sur l'entreprise, en fait, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer parfois. Ça dépend ce qu'on définit par entreprise. C'est à cause de la gratuité, aussi. J'ai donné 2 exemples, l'un assez doux, l'autre un peu plus violent par rapport, et qui ne concerne pas forcément l'entreprise, mais... Une question d'organisation des communautés, des groupes. Aux États-Unis, je crois que ça devait être en Californie, il y a eu des expériences pédagogiques faites avec des étudiants en médecine. Vous savez que les étudiants en médecine sont plutôt sélectionnés, en tout cas à la fin de la première année, sur des compétences de mémoire, et puis en mathématiques, en mécanique, enfin voilà, des choses... qui n'ont finalement rien à voir avec la médecine en tant que science humaine, en tant que science fondée, fondée sur la relation entre le malade et le médecin. Ce qu'on leur a proposé, c'est des ateliers de chorégraphie, et enfin de danse contemporaine, en l'occurrence, c'est-à-dire de n'importe quelle danse. Enfin bon, voilà. Et les chercheurs qui ont observé ça, ils ont vu que, évidemment, les étudiants en médecine en question, ils ont découvert ce que c'était que de négocier, ce que c'était que de toucher un autre corps, ce que c'était que d'avoir des relations d'empathie avec d'autres corps, et de travailler en commun. Ça me fait penser à ce qui a été dit sur l'intérêt qu'il y a, y compris dans l'éducation nationale, à dépasser le niveau du travail strictement individuel, évalué individuellement, alors qu'en fait, et dans le monde de l'entreprise, on le sait bien, c'est des travaux de groupe. Et mon deuxième exemple est un peu plus brutal, c'est la danse country qui m'y a fait penser. Mais c'est parce que je suis un peu, comment dire, je suis un peu borné idéologiquement, et dès que j'entends dance country, je pense au sud profond, raciste, etc. Oui. Bon. Et c'est pas bien parce que c'est pas du tout évidemment ce que pensent, ce que ressentent les amateurs qui font ça.
Mais ils n'y pensent même pas.
Mais pour les territoires, c'est très important la danse dans de nombreux régimes politiques. On parlait de danse d'expression hein, tout à l'heure. Enfin, je pensais à les exemples que vous donniez. Ça me faisait penser au. Oui, vous avez parlé de la bonne, par exemple. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, les grandes fêtes, etc., ont été chorégraphiées et filmées, mais enfin, surtout chorégraphiées d'abord par des chorégraphes. Bien précis, avec des amateurs. Mais là, on a le système complètement différent de celui que vous mettez en valeur, c'est-à-dire que c'est une mise en ordre d'un territoire et de sa population par un pouvoir chorégraphique qui s'impose et qui produit un certain type de corps. Évidemment, le corps mis en valeur en 36, bon, il n'était pas très foncé, il n'était pas très voilà, il n'était pas très méditerranéen. Africains, etc. Et pour finir, donc, je pense que dans les entreprises, il pourrait y avoir des ateliers chorégraphiques, par exemple, et les entreprises pourraient fonctionner mieux à l'aide de ça. C'est un exemple, hein, mais ça peut être d'autres choses. Plutôt que des systèmes d'organisation autoritaires. Alors, je sais que les entreprises ne fonctionnent plus comme ça. Hein, on parle de collaborateurs maintenant, on ne parle plus d'employés. Enfin, bon. Mais il faudrait que ça ne soit pas seulement dans les mots, mais dans la réalité des relations.
Mais précisément, j'allais élargir ma question au-delà du territoire, aux entreprises. Exactement. Puisque, ayant connaissance par Sébastien Carnac, qui est le directeur d'Aquitaine Culture, d'un certain nombre d'expériences qui visent à ce que, un peu à la manière d'Alexis, mais il n'a pas été assez loin dans sa proposition, je dirais, avec l'entreprise, parce qu'au fond, ça va beaucoup plus loin, c'est prendre les bruits de l'entreprise et transformer ces bruits en une œuvre musical, c'est une tentative qui va être essayée, mais je pense qu'on pourrait poser la même question à la danse, mais je ne veux pas accaparer le micro. Il y avait une question, je crois, dans la salle. Oui, et puis.
Oui, Catherine Muller, je travaille à l'Agence culturelle du Poitou-Charentes, mais jeune retraitée. Juste, un petit aparté sur le country. Parce que, en fait, ça a l'air d'être suspendu comme ça, mais je suis allée dans les Flandres, puisque j'ai travaillé à Dunkerque, et dans un café très traditionnel, chaque dimanche viennent des Flamandes, enfin des gens enfin, vraiment qui viennent du terroir, de la culture profonde, qui viennent tous les dimanches danser une sorte de Madison, en tout cas quelque chose qui ressemble à ça, en ligne. Et voilà, ça ne vient pas du tout des États-Unis, ça vient d'une culture profonde des Flandres. Donc il y a aussi quelque chose de chez nous, de ces danses en ligne, elles ont existé aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'en rapproche, je vais dire ça. Et non, en fait, je voulais rebondir sur l'histoire de la créativité. Effectivement, je pense que, oui, tout le monde a en lui des possibilités de créativité, mais peut-être que la différence à partir du moment où vous êtes professionnel, non seulement vous entrez dans une histoire de l'art et dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'écriture, et là on n'est pas sur quelque chose d'un plaisir, d'une créativité du moment socialisé. Vous vous positionnez à un endroit d'écriture à partir d'une grammaire, d'un héritage, d'un vocabulaire. Et voilà. Et pour moi, on n'est pas au même endroit de créativité. On est à un endroit de l'écriture et pas de l'expression. Il y a un basculement et voilà, qui est justement toujours l'endroit de l'interrogation. J'ai pas envie de le refermer en me disant tout est créativité, c'est juste une question de pratique. Non, c'est pas qu'une question de pratique. Je pense qu'à un moment donné, c'est une question de différentes postures. La posture de l'écriture est une posture différente de celle de venir participer à un plaisir collectif, même avec. Enfin voilà, pour moi, c'est pas pareil.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un peu, je suis d'accord avec le fait qu'il y a l'expérience. Et après, il y a le volet dont je parle d'un spectacle accompli, que ça peut être aussi avec des amateurs, hein, mais, où l'écriture entre
Donc, mais je suis sûre qu'au niveau... Parce que, par exemple, moi, si je pense à quand on crée avec la compagnie, c'est un plaisir énorme, toute la première partie qui, du processus de création qui peut être très proche de quand on est avec des noms de danseurs, dans mon cas, hein, parce que je n'en s'applique pas du tout. Je cherche, je propose aux danseurs de chercher un mouvement le moins volontaire possible, donc aussi de s'éloigner de leurs compétences, éventuellement. Ils en ont, mais c'est des compétences acquises par le fait que... C'est comme savoir aller à vélo, tu n'y penses plus. Tu as un corps qui sait chuter, c'est ne pas se blesser, mais on ne va pas dans la technique... exposé. Donc c'est pareil avec des amateurs, juste peut-être ils se lancent un peu moins pour ne pas se blesser. C'est un peu là la différence. Sur la première phase de processus, justement, c'est l'expérience aussi. Après, il y a la deuxième partie qui concerne donc l'écriture. Et là, c'est différent, comme vous le dites, en effet. Mais cette première partie qui est très belle, des fois pour moi, mais ça c'est personnel, je la préfère à l'écriture. Je trouve du plaisir aussi dans l'écriture. C'est autrement, je ne ferais pas, mais... Et ben là, la créativité, elle peut être chez tout le monde et chez les amateurs aussi très très fortement. Je pense que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que il faut pouvoir, par expérience, il faut que les gens puissent être rassurés sur le fait que c'est possible. Voilà. Et donc du coup, c'est ce que je disais, avec peut-être des codes, on se sent casé là-dedans. Et sans code, il faut trouver d'autres manières de donner cette sûreté en eux-mêmes qui est même du fait que voilà, la confiance, voilà. Donc là, c'est quelque chose que j'essaie de dire tout à l'heure. Mais oui, l'écriture change complètement les données. Oui,
oui, c'est l'exigence. Et je vois même les... Parce que, bon, alors cette année, bon, ils étaient 500 danseurs. Non, mais ces 500 danseurs, on leur a proposé de venir. Mais après, il faut les convaincre, parce qu'il ne s'agit pas de leur dire « venez danser ». Donc sur les 500, il y a 250 adultes, hein, société civile, jeunes adultes, hein, jusqu'à 70 ans. Puis après, il y a lycéens et étudiants. Donc nous, comment on travaille, en fait, c'est dans la semaine, 15 jours avant le festival. Donc déjà, c'est rencontrer les profs qui veulent bien jouer le jeu, puisque en fait, on leur transmet pendant le temps scolaire. C'est-à-dire pendant 2 jours et demi, ils n'ont pas classe. Ils travaillent, on travaille dans une salle et après dans l'espace public, évidemment, pour mettre en lien tout ce qu'on a imaginé. Et après, cette histoire-là, elle se danse le samedi. Et là, l'idée, évidemment, c'est qu'ils soient là le samedi. Et ça, c'est tout un truc. Parce que tu ne sais pas jusqu'au dernier moment. Donc, ils se rencontrent jamais. Ils se rencontrent, les 500 se rencontrent vraiment le jour même. Voilà. Et après, tu ne sais pas, évidemment, tu es un peu plus sûr sur les adultes qui se sont inscrits, parce que tu sens qu'il y a un engagement. Après, sur les... Évidemment, c'est plus... voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont... Voilà. Ils viennent. Ben alors, bon, il y en a peut-être les 50 qui ne sont pas venus sur les 200, 40 qui ne sont pas venus sur les 200. Ils viennent. Et la veille, sur la répétition, où là, on est tous ensemble sur l'espace de jeu, donc parce que là, en fait, moi, mes entrées, mon écriture, elle vient d'une situation dramaturgique. Cette année, le Grand Dancing, il se danse sur une pelouse à Niort, une grande place, où on joue beaucoup. Il y en a qui jouent au ballon, et on a fait un match chorégraphié. On est parti sur ce qui se passe habituellement, évidemment, on le détourne. Et je pensais qu'avec une thématique comme ça, le jeu, les collégiens, les lycéens, j'allais les... Ah ben non, mais non, mais non. Non, non, il faut y aller, il faut les convaincre. Et plus on est exigeant, plus tu proposes un cadre précis, en sachant que moi, j'ai une écriture, mais après, moi, l'écriture, elle va jusqu'au bout. C'est-à-dire que la veille, d'ailleurs, sur la dernière répétition, je leur dis, là, on commence la répétition, sur cet endroit-là, je ne sais pas. On va voir ce qui se passe. Et à la fin, par contre, pour le lendemain, on saura ce qui va se passer à ce moment-là. Et là, on sent un moment de fragilité parce que, en fait... ça passe par le cadre, il faut les rassurer, il faut les convaincre, c'est les rassurer, c'est leur donner envie, il ne faut rien lâcher, c'est-à-dire qu'il faut être mais voilà, mais déterminé, nous on sait où on les emmène, ils ne savent pas, alors ils le subordent, enfin, mais c'est voilà, tout ça pour dire que voilà, il faut, c'est convaincre, et après quel bonheur, mais moi quand on les voit les 500 danser, on se dit que c'est un monde meilleur. Non mais vraiment, vraiment, et là il y a du plaisir d'être ensemble, il y a du sensible, et il y a une espèce de voilà, sur dont la moitié du groupe qui n'était pas convaincu. Oui, ouais, oui, ah ben oui. C'est indissociable.
C'est indissociable. Cette rencontre, c'est aussi ce qui fait la force de ces propositions-là.
Alors, sur la créativité à Nantes, je pense que oui, c'est une ville qui bouge au niveau culturel et que j'ai l'impression qu'une bonne partie des personnes sont prises dans cette épidémie d'action, de créativité. Après, ça ne concerne pas forcément toutes les origines. Et ça, c'est un grand discours, mais là, je pense qu'on ne peut pas le résoudre déjà. Mais ça, c'est un grand questionnement aussi. Comment arriver à tout le monde ? Est-ce que tout le monde a envie qu'on arrive ? Est-ce que ça fait sens pour toutes les racines culturelles ? Parce qu'il y en a où le corps, c'est très compliqué à aborder. Mmh. Donc ça, c'est un questionnement qu'on a fortement. Et en même temps, c'est là qu'on voudrait aller parce qu'on a peut-être la prétention de pouvoir faire quelque chose. Donc aussi, je pense qu'il faut être humble et rester simple et en même temps essayer. Et au niveau des entreprises, ce que je peux dire, c'est merci. Parce que après tout ce questionnement qu'on a avec l'équipe aussi au centre chorégraphique, je me dis, tiens, là, c'est un volet que moi, je n'avais pas trop considéré, même en sachant qu'il y a bien sûr toute une activité qui se fait depuis des années. Et c'est encore un autre volet qui est sûrement important. C'est sûr que le fait de partager, de s'écouter, s'écouter à travers le corps, moi, je disais toujours, il y a longtemps, c'est longtemps que je ne dis plus, que aussi les politiciens, s'ils faisaient plein d'ateliers de danse, s'ils faisaient des ateliers d'écoute, au-delà de la parole, non, mais ça à côté, j'adore la parole, c'est pas, mais écouter, sentir l'autre, vous, ça pourrait être utile, donc pourquoi, en effet, dans les entreprises aussi. Et après, j'ai une chose que, quand je pense à tout ce travail avec les personnes, tout ça, et à des doutes qu'on peut avoir justement sur mais ça sert à quoi, tout ça, que moi j'en ai. Je repense toujours, je cite cet exemple des milliers de fois, donc peut-être, enfin, heureusement, vous n'avez pas déjà entendu, donc c'est bon, mais que quand je rentre en crise et que je me dis, mais ça fait sens, pourquoi, c'est de l'argent public, qu'est-ce qu'on fait là ? Je repense à quand j'ai été donné un stage de danse à Srebrenica, je le prononce à l'italienne peut-être, c'est donc en Bosnie, là où il y avait eu en 1995 un génocide horrible. C'était l'année où j'étais en terrel, moi, dans la forêt noire. Tu vois, c'est maintenant. Non, en 95, c'était une année où je vivais ma vie normale d'adolescente heureuse. Puis je pars donc à Srebrenica 15 ans après, c'était en 2009, pour donner donc, comme bénévole un atelier de danse qui n'a servi à rien. Donc c'était juste parce qu'il est sorti du rien, il n'était pas suivi. Moi aussi, hein, j'étais une experte, donc ça, comme ça, ça ne servait pas. Mais quand je vais rencontrer des enfants et chez des familles qui me montrent des vidéos, parce qu'en 95 on avait les caméras, les gens comme nous, on avait des caméras, donc qui filment des personnes habillées en serbe qui tuent ton oncle, ça c'était le frère de maman, vraiment comme ça, c'est pas un film. Et les enfants avaient ils avaient vu les vidéos plein de fois, donc ils jouaient autour du sofa. Nous, on était en larmes, et les enfants connaissaient cette histoire pour l'avoir vécue à travers leurs parents. Et là, je me suis dit, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui décide que les Serbes, il faut les éliminer, par exemple, ben je vois bien comment un enfant peut dire, ben bien sûr, ils ont tué. Donc, dans un lieu, dans un moment où c'était évidemment plus extrême, le malaise, il les a... Là, j'ai dit, bah oui, il faut que ces enfants puissent lire, rencontrer des enfants serbes, danser avec eux, pour voir que c'est des êtres humains, que c'est pas... Alors là, dans un lieu où c'était plus extrême, je me suis dit, oui, il faut continuer. Ici, c'est pas si extrême, pas partout, mais voilà, là, je retrouve... Et ça, c'est un exemple qui me revient à chaque fois pour dire, bon, c'est bien de continuer. Et en même temps, en étant humble, pas en pensant que... On est artiste, donc du coup, on est des semi-dieux, on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on fait ça bien, qu'on résout des problèmes du monde. Je sais pas, je suis entre les deux, vraiment, c'est ces deux choses.
Mais c'est toujours intéressant de parler des politiciens, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils fassent des ateliers, qu'ils rencontrent. Et en même temps, on a vraiment, et c'est ça, je le mesure depuis peu de temps, enfin, en tout cas, sur la ville de Niort, sur laquelle je suis, les élus, on a vraiment cette chance-là de pouvoir changer le regard de nos élus locaux, certes. Mais je me dis que c'est bien de démarrer aussi par la base. Moi, quand je vois le regard du maire, hein, de notre maire, bon, je partage pas vraiment ses idées politiques, mais ça, je le mets complètement à part. Mais quand je le vois sur tout le festival, qui vient voir, alors
le grand groupe hein, qui danse, d'accord, mais aussi d'autres spectacles. Et quand je vois avec ses yeux, et là, il n'est pas là pour serrer des louches, il n'est pas là pour dire, oh, regardez, je suis là. Non, il est là et il est ému pendant un quart d'heure. Et à la fin, il vient m'embrasser. Il a envie de m'embrasser. Non, non, mais c'est incroyable. C'est quelqu'un de... J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de très intelligent. Après, évidemment, c'est un politique. Donc, mais c'est quelqu'un qui est droit, qui est droit. Voilà. Et là, ce jour-là, waouh, eh ben, j'ai rencontré l'homme. Et je pense, et là, tu dis, mais oui, c'est possible. Le sensible, il est aussi chez nos élus qui nous accompagnent. Et moi, je travaille avec les élus. Moi, la ville, j'ai pas envie de faire un festival dans une ville si je suis pas en lien avec les élus et si on parle pas de choses simples, du quotidien, quoi. Et c'est un travail ensemble. C'est comme le boulot. Je fais une courte parenthèse parce qu'au bout d'un moment, nous, on est compagnie. On a un festival. Et là, le boulot qu'on fait en lien avec la scène nationale, c'est génial. Parce que la scène nationale, elle prend le relais. En 2015, quand on convoque ces danseurs amateurs, il me dit, mais, pour Jacques le directeur, il me dit, mais on fait quoi de ces danseurs amateurs? Je dis, rendez-vous en 2017. Et là, lui, il a l'idée. Il dit, non, on va continuer. On va leur proposer des dimanches de danse. Un dimanche tous les mois et demi de danse. 100 inscrits sur un dimanche. Des gens qui sont venus faire un flash mob, eh bien, il y en a 100 qui se sont inscrits sur un dimanche tous les mois et demi sur le plateau de la scène nationale en alternance dedans-dehors. Et ça, et là, il y a un vrai travail de compagnonnage, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Tout seul, j'y arrive pas sans les élus, sans les politiques, sans l'argent public. Mais pareil, je pense qu'on a une relation à l'argent public qui est sérieuse, quoi, sincère. Voilà. Donc, c'est un compagnonnage aussi. La réussite de quelque chose, c'est ensemble sur différentes échelles.
OK. Merci pour ce témoignage. Merci, Isabelle, d'avoir suscité cette organisation à l'intérieur de Créativité Territoire. Et on n'est pas loin de ça. Et merci à Michel Briand aussi.
Ça aurait été bien une conclusion, Michel.
Eh bien, alors, allons-y. Ouais. C'est tout à fait possible.
J'ai pas prévu. C'était pas mal chorégraphié, notre truc. En fait, non, mais
le contrepoint.
J'ai un exemple sur les histoires de territoire. Quand j'étais à Athènes début juillet pour un congrès sur les études de danse, enfin histoire de la danse, bon, tout ça. Et j'ai été très frappé par un exposé d'une danseuse chorégraphe grecque qui intervenait auprès des jeunes dans les camps de réfugiés. Qui sont assez nombreux, vous savez, autour d'Athènes et au Pirée, etc. Et elle faisait part de la relation, évidemment, entre dans ces territoires-là, pour le coup, hein, traverser des frontières, etc., mais traverser des identités. Et j'avais surtout été frappé par la manière dont elle racontait ce que chacun de ces gamins venait d'endroits différents. Donc ils avaient des danses dans leur corps qu'ils pratiquaient régulièrement. Et puis il y avait aussi les danses mondialisées qu'ils voulaient faire, hein, parce que qui viennent de Syrie ou de New York, ou, etc. Un gamin de 13-14 ans, il va avoir envie de faire du hip-hop, hein, par exemple. Bon, voilà. Et comment elles avaient l'impression de produire un travail fondamental pour la vie de ces gamins-là. Voilà. Ce serait un exemple. Et ça rejoint un peu, bon, je pense, plusieurs de vos interrogations, nos interrogations sur l'individu, la personne, et puis la construction de communautés, de groupes, et puis les frontières territoriales et les frontières entre les gens, quoi.
Okay. Bon, ça suffira. Merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, je vous invite au déjeuner, et ensuite, on reprend à 14h sur le thème érotisme et écriture, et ensuite sur des choses un petit peu plus risqué sur les problèmes de sécurité, tranquillité et d'agriculture. Voilà.